Bon, ben je vous remercie d'être venu m'écouter. Enfin, je crois que ce n'était pas une interruption, c'était des déplacements.
Oui, c'est déplacement.
Et en fait, la fin de l'année va être chargée.
Voilà, c'est ça.
Voilà. C'est-à-dire, c'est l'inverse du rythme habituel. Ça s'accumule vers la fin. Bon. Donc, la dernière fois, j'étais venue vous parler de la jeune homosexuelle. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là. Donc aujourd'hui, on fait un saut dans le temps, puisque je dois vous parler de la duplicité de la jouissance féminine, c'est-à-dire au fond de la sexuation selon Lacan. Alors je vais peut-être commencer par justement vous expliquer un petit peu comment cette question se présente aujourd'hui finalement, puisque c'est quand même... Vous n'entendez pas ? Oui, donc je disais, là ça va mieux ? Là ça va ? Bah oui, approchez-vous. Bon. Donc finalement, la question de la sexuation, c'est tout simplement la question comment est-ce qu'on devient ou pas homme ou femme ? Enfin, c'est simplement, pour le dire de manière très large, cette question-là. Et au fond, comment ça se présente pour un psychanalyste aujourd'hui d'en parler ? C'est une question qui n'est pas la même, évidemment, que du temps de Freud. Alors, depuis quelques années, on a assisté à un débat, notamment dans la communauté analytique, et au fond, entre deux courants de pensée contradictoires. Et puis, bon, ce débat est devenu progressivement public en France lors des discussions sur la parité et lors du vote du PAX. Donc, ça fait déjà un petit moment, quoi. C'était, je sais plus quand, le PAX, c'était quand ? C'était 2000 ? 99, voilà. Donc, c'est à peu près depuis 99 que ce débat a pris de l'ampleur, pour d'ailleurs s'affaiblir après, me semble-t-il, mais notamment dans la communauté analytique. Alors ce débat existait déjà depuis longtemps aux USA, et spécialement depuis la dépathologisation de l'homosexualité en 1973 par l'APA, c'est-à-dire l'American Psychiatric Association. Cette dépathologisation de l'homosexualité avait été obtenue grâce à la lutte des homosexuels pour faire reconnaître leurs droits aux États-Unis. Vous m'entendez ou pas ? Non ? Bon, alors ceux qui ne m'entendent pas, vous venez devant. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 places devant. Venez. Parce que moi, je ne pourrais pas crier, hein, c'est pas possible. Donc. Alors, au fond, donc, aux États-Unis, il y avait deux mouvements, on peut dire particulièrement, bon, je simplifie beaucoup, hein, les mouvements gays et queer, qui était assez florissant depuis les années 70 pour le premier, le mouvement gay, et depuis 1990 pour le mouvement queer, et qui s'était inspiré beaucoup de La volonté de savoir de Michel Foucault, dont le premier tome a été publié en 1976. Ils ont travaillé théoriquement et d'une façon souvent créative sur la différence sur la question de la différence sexuelle. De façon souvent plus créative qu'en France, il faut bien dire. Bon. Alors, en France, les psychanalystes, je pense, étaient d'une part embarrassés par la complexité de l'enseignement de Lacan, c'est-à-dire qu'ils passaient leur temps à étudier Lacan pour essayer d'y comprendre quelque chose, et du coup, bon, ils avaient tendance à oublier un peu ce qui se passait à l'extérieur. C'est-à-dire, au fond, ils étaient embarrassés par la complexité de cet enseignement, poussé jusqu'au point où on peut en tirer des conséquences pratiques, ce qui est quand même ça qui est important. Et d'autre part, ils étaient aussi embarrassés par la virulence de l'attaque de Foucault contre la psychanalyse dans La volonté de savoir. Donc ça a engendré plutôt une sorte d'embarras et probablement de paralysie. Enfin, moi, c'est en tout cas comme ça que je l'ai pensé, une sorte de paralysie du mouvement analytique. Donc, il y a eu un réveil, bien après les États-Unis, au fond, un réveil au moment où il y a eu toutes ces discussions qui sont venues à un niveau parlementaire, quoi. Hein, un moment où, donc, où la société finalement a poussé les gens à réfléchir sur un certain nombre de questions. Et à ce moment-là, donc, on a assisté à un certain nombre de positions. Alors, il y avait d'une part, alors toutes ces positions étant émises au nom de la psychanalyse. Donc, d'une part, on avait des discours qui fustigeaient le mariage homosexuel, et surtout la possibilité de l'adoption des enfants par des couples de même sexe. Et ça, ça continue, d'ailleurs. Ces discours, il faut bien le dire, ne se référaient à aucun fait clinique qui puisse les étayer, et ils s'appuyaient plutôt sur un concept de l'ordre symbolique ou de la loi symbolique, qui était attribué d'une façon souvent très imprécise à Lacan. Et donc, on a entendu des discours apocalyptiques qui évoquaient plus, à mon sens, la chair religieuse qu'un discours scientifique établi sur des bases cliniques. Donc ça visait en vrac la procréation médicale assistée, qui était déjà où les enfants étaient déjà menacés des pires catastrophes, le mariage, l'adoption homosexuelle, le clonage, n'en parlons pas, etc. Et donc finalement, on constatait à ce moment-là que pour un certain nombre de psychanalystes, était en jeu une très vieille conception des relations sexuelles, appuyée et justifiée par la reproduction et la survie de l'espèce humaine. Une conception naturaliste, donc. Très en deçà, même par exemple, de celle de quelqu'un comme Diderot, qui disait que tout ce qui est ne peut être ni contre nature, ni hors de nature. Conception à laquelle on pourrait appliquer la critique de Lacan, une critique que Lacan faisait au psychanalyste Ernest Jones en 1932. Donc ce psychanalyste, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais bon, c'était au moment où il y a eu toute la querelle sur la féminité parmi les analystes, une autre querelle donc dans les années 30, qui est très vivante et très mouvementée. Eh bien, donc Ernest Jones avait critiqué Freud et lui avait dit qu'il n'y avait pas que la face phallique. Enfin, il n'était pas d'accord avec l'histoire de la face phallique chez la fille, comme d'autres analystes d'ailleurs. Il était pour une sorte de naturalisme finalement, où au départ il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Bon. Et donc il y a une phrase de lui, au commencement il les créa mâle et femelle, où il reprend finalement une idée assez religieuse. Et Lacan écrivait, donc pour le critiquer, que c'était une entreprise si animée du préjugé de la dominance du naturel que finalement on se retrouvait dans la Genèse, dans la religion. C'est-à-dire que le naturel amenait à la religion qui n'est pas naturelle, elle, mais que finalement ce que les gens appellent le naturel, comme ça n'existe pas chez l'homme finalement, ou comme c'est tellement subverti chez l'homme, eh bien, au fond, dès qu'on se réfère à la nature ou qu'on s'appuie sur la nature, on est toujours dans une idéologie, et en général, on s'aperçoit très vite que c'est l'idéologie religieuse qui est derrière. Donc il y avait d'un côté des discours comme ça, donc que j'appellerais réactionnaires, et il y avait de l'autre côté donc toute une autre série d'analystes qui ont réagi très vigoureusement contre ces premiers discours, mais si je puis me permettre l'expression, en jetant un peu le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire ils critiquaient à juste titre donc un concept de l'ordre symbolique. Donc les premiers s'appuyaient sur l'ordre symbolique, censé être comme quelque chose de toute éternité qui finalement est une sorte d'ordre religieux, et les seconds critiquaient les premiers en disant que cet ordre symbolique se réduisait à un ordre divin. Mais en même temps, ils attribuaient cette position à Lacan. Bon, ce qui me paraît faux. C'est-à-dire qu'ils attribuaient à Lacan, donc, et spécialement à son concept du nom du Père, au fond, ils le réduisaient à n'être qu'une réédition de la Bible, sans aucun intérêt clinique, et donc il y a eu un certain nombre d'auteurs qui ont enfourché ce genre de position, basé sur des lectures extrêmement partielles de Lacan. Je ne dis pas qu'on ne trouve pas dans les 30 ans de séminaire certains passages qu'on peut interpréter dans un sens comme ça, bien sûr. Mais bon, ce n'est pas la tendance générale et c'est surtout pas l'évolution de Lacan au cours du temps. Voilà, donc on avait ces deux prises de position. Et quand je disais qu'il jetait le bébé avec l'eau du bain, c'est que voulant tout jeter, c'est-à-dire on jette la castration, on jette la face phallique, on jette le nom du père, ça va de soi. Et finalement, bon, ils en venaient à ce que dans la psychanalyse, il ne restait plus aucun outil de travail, si vous voulez. C'est-à-dire que bon, dans la psychanalyse, ces concepts, en principe, ne sont pas des concepts, même l'Œdipe, c'est un concept normatif, si vous voulez, mais normatif dans le cadre de la psychanalyse. Ce n'est pas une norme sociale, normalement. Bon. Et donc, ils en venaient à jeter absolument tous les concepts et finalement à dire qu'on devait garder que ce que Freud avait fait dans la science des rêves. Voilà. C'est-à-dire, bon, très intéressant, certes, mais quelque chose où il reste plus beaucoup d'instruments de travail pour penser quand même la clinique. Et puis d'autre part, donc, ils adhéraient, ces analystes très libertaires ou libéraux, si vous voulez, donc adhéraient finalement à toute une idéologie du transformisme de la sexualité, qui certes, que certes on peut appuyer sur certains textes freudiens, genre les trois essais sur la théorie sexuelle, où Freud parle de la perversion polymorphe de l'enfant. Mais là encore, ce sont la plasticité des pulsions, le fait qu'il y a un transformisme possible d'une pulsion dans une autre, ou d'une forme de pulsion dans une autre, chez Freud, ne signifie absolument pas qu'on puisse faire n'importe quoi. Et en particulier, bon, Freud lui-même a beaucoup insisté sur les fixations, les inerties, la viscosité de la libido, enfin un certain nombre de choses fort désagréables pour l'être humain. Qui signifie que quand il veut changer quelque chose dans sa vie, eh bien, en général, c'est compliqué. Bon, et d'ailleurs, on s'en aperçoit tout le temps dans les analyses. Si les gens viennent nous voir, c'est quand même parce que, justement, ils n'arrivent pas à changer tout seuls facilement les choses. Et même avec l'analyse, ça n'est pas si simple. Donc, il y avait une sorte d'idéalisme, si vous voulez, lié au mouvement queer, à toute une idéologie du transformisme comme quelque chose de très aisé, qui impliquait en effet de laisser tomber un certain nombre de concepts, mais sans en remettre d'autres à la place. Voilà. Donc, et alors c'est toute cette deuxième catégorie de discours que j'appellerais plus idéaliste, sympathique en même temps, a eu quand même, pour moi, a eu un mérite. Bon, d'abord, elle a poussé les analystes à réfléchir, ce qui était très bien, et elle a attiré l'attention sur un certain nombre de textes, comme les textes de Foucault, par exemple, et sur l'historicité de la différence des sexes, enfin sur un certain nombre de thèmes comme ça, que les premiers analystes avaient tendance à oublier. Bon, chose qu'il ne faut pas oublier, existait dans la psychanalyse, c'est-à-dire que si vous lisez Freud, les trois essais, par exemple, Freud lui-même insistait sur les différences entre la vie amoureuse, par exemple, dans l'Antiquité et la nôtre, sur les différences au niveau même du fonctionnement de la pulsion. Hein. Donc, c'est pas du tout des choses. Enfin, tout n'a pas été inventé. Il y avait des choses, mais on les lisait mal. Hein, voilà. Bon, donc, je vous donnais un peu ces deux positions, enfin très schématiques, bien sûr. Pour vous dire que finalement, le discours sur la sexuation aujourd'hui, et sur la sexualité aussi, mais surtout sur la sexuation, est un discours qui n'est pas sans difficulté pour les psychanalystes. C'est-à-dire que c'est un discours où ils doivent à la fois garder la corde de leur expérience clinique, penser à un monde qui se transforme, et donc ne pas rester figé sur des positions anciennes a priori, mais ils doivent pas non plus, je pense, céder à la mode, si vous voulez, dans le sens de vous y viendrez à vous rapprocher. Voilà. Ils ne doivent pas non plus céder à la mode, si vous voulez, dans le sens de se mettre à raconter des histoires, quoi. C'est-à-dire à raconter qu'on peut changer de sexe, par exemple, sans problème, des choses comme ça qui sont, hélas, complexes. Bon. Alors, donc moi, j'ai à cette époque-là, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Ambiguïté sexuelle » et au fond, j'étais partie de l'idée, tout le monde parlait de l'identité, donc moi, j'étais partie de l'ambiguïté, en fait, parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'identité sexuelle, tout simplement, fondamentale. C'est-à-dire, je pensais que l'identité sexuelle était quelque chose de compliqué, qui n'était pas donné au départ, et qu'au fond, ce qu'il y avait au départ, c'était plutôt l'ambiguïté sexuelle, et je m'étais intéressée à des cas où cette ambiguïté sexuelle était manifeste chez des adultes. Et il me semblait que finalement, c'était une thèse qui, puisque bon, on était envahi par les thèses, par exemple, stolériennes, Stoller est un psychiatre américain qui a beaucoup travaillé avec des transsexuels, qui postulait un noyau d'identité de genre. Donc les gens avaient un noyau d'identité de genre, et il fallait trouver ce noyau, etc., etc. Bon, voilà. Donc moi, je pensais qu'il n'y avait pas de noyau, et que il y avait des ambiguïtés, et que c'était à partir de ces ambiguïtés qu'une position pouvait s'affirmer ou pas. Et donc, je m'étais intéressée au cas où elle s'affirmait pas, par exemple, ou bien où elle s'affirmait en contrariété avec soit l'anatomie, soit le discours éducationnel, enfin des cas compliqués comme ça, qui permettaient justement de s'y retrouver un peu théoriquement, c'est-à-dire de voir que ce qu'on prenait pour des évidences ne l'était pas, par exemple. Alors il me semble que donc chez Freud, il y a cette idée, au fond, qu'il y a au départ un vide plutôt qu'un noyau d'identité. Par exemple, lorsque Freud affirme qu'il n'y a pas de pulsion féminine. Bon, alors ça, c'est quelque chose qui a toujours beaucoup énervé les féministes. C'est vrai que c'est énervant, il y a des formulations freudiennes qui sont hérissantes. Freud affirme, par exemple, qu'il n'existe pas de pulsion féminine, mais une seule libido de nature masculine. Bon. Alors après, il reprend en disant ce qu'il appelle masculin, ça veut dire actif. Il n'y a qu'une libido active et il n'y a pas de libido passive. Bon. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un vide. Moi, on peut l'entendre comme ça aussi. Qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de deux qui est donné, si vous voulez. Il n'y a pas une dualité donnée au départ des sexes. Bon. Au niveau, par exemple, de quelque chose comme la pulsion. Qui n'est pas quelque chose de naturel. La pulsion n'est pas l'instinct, hein, dans la psychanalyse. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans tout, sinon on n'en sortira plus. Ou bien, lorsque Freud installe le phallus et le complexe de castration au cœur de la vie sexuelle, eh bien, c'est un pour tout le monde. Hein. Tout le monde a rapport au même phallus, les garçons et les filles. Et le complexe de castration, même si ça ne fonctionne pas de la même façon pour les deux sexes, déjà chez Freud, il y a quelque chose de commun pour les deux. Alors, il y a un certain nombre de... Lacan a repris, c'est... Bon, là, je vais un peu vite, puisque je voudrais quand même arriver au sujet d'aujourd'hui. Lacan a beaucoup insisté, me semble-t-il, sur ce vide qui est au départ, ou cette absence, par un certain nombre d'aphorismes qui sont bien connus, comme « il n'y a pas de rapport sexuel » ou « la femme n'existe pas », qui sont des aphorismes provoquants, destinés à provoquer, et qui demandent un commentaire, bien entendu, qui ne signifie pas forcément les choses qu'on pense au début. « La femme n'existe pas » ne veut pas dire que les femmes n'existent pas, « le rapport sexuel n'existe pas » ne veut pas dire que les gens ne couchent pas ensemble, etc. Bon. Au fond, ça souligne une dissymétrie. Quand on dit « la femme n'existe pas », ça souligne une dissymétrie qui est un peu la même que celle que Freud pose, enfin, même si c'est pas, ça n'a pas le même sens chez Lacan, on va le voir après, un peu le même genre de dissymétrie que celle que Freud pose quand il dit que le phallus est l'unique repère pour les deux sexes dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a un seul signifiant pour les deux sexes dans l'inconscient. Quand il dit « la femme n'existe pas », ça veut dire « le signifiant de la femme n'existe pas dans l'inconscient », c'est-à-dire l'inconscient n'a pas de représentation équivalente à celle du phallus qui serait pour la femme. Bon. Ceci dit, le phallus, ça n'est pas l'homme. Bon, c'est ça qu'il faut aussi voir. Et donc, moi j'étais partie de cette idée que justement, le phallus lui-même était le pivot de l'ambiguïté sexuelle. Puisque les deux sexes avaient un rapport avec ce signifiant et qu'ils devaient tous les deux faire avec ce seul terme. Donc deux sexes anatomiques, un seul principe du sexe dans l'inconscient, le phallus, qui peut d'ailleurs être rejeté par le sujet, puisque bien entendu, ce fameux phallus, eh bien, il y a un certain nombre de sujets qui n'en veulent pas et qui font leur vie sans ce signifiant. Hein. Alors je dis signifiant, ça veut dire symbole, si vous voulez. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas, ça n'est pas le pénis, ça n'est pas la représentation du pénis, c'est le, par exemple, bon, ben c'est ce que penser au graffiti qu'il y a dans le métro ou ailleurs, au fond, c'est quelque chose qui est éternel, toujours en érection et coupé du corps. Hein, voilà, donc c'est quelque chose qui n'existe pas. Bon. Et au fond, chez Freud, le prototype du phallus, il ne faut pas oublier, c'est le phallus maternel, c'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais existé et qui est imaginé au départ par les enfants à partir de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, mais qui est donc posé comme une sorte d'axiome. Voilà. Alors donc il y a des sujets qui rejettent cette représentation et c'était ces sujets-là qui m'avaient particulièrement intéressé à l'époque. C'est les sujets qu'on dit psychotiques. Là encore, psychotique a pour nous un sens qui n'est pas identique à ce qu'on pense être la folie de manière populaire. Ce sont des définitions structurales et donc quelqu'un de psychotique peut très bien ne pas être fou du tout et réciproquement quelqu'un de complètement fou peut ne pas être psychotique. Donc ces sujets, en tout cas, avaient pour moi l'intérêt d'être des sujets qui rejetaient les normes sociales les plus courantes, hein, le discours, ce que Lacan appelle le discours sexuel, c'est-à-dire le discours courant qui tourne autour du phallus, bon, et qui fait que nos représentations sexuelles sont liées à ça. Et donc il y a des sujets qui rejettent ça, et à un niveau inconscient bien sûr, et qui je ne parle pas des gens qui disent qu'ils ne veulent pas du phallus comme ça, c'est pas ça. Hein. parle de quelque chose de beaucoup plus inconscient. Et ces sujets, au fond, sont conduits à inventer des solutions inédites pour être homme ou femme. Et c'est donc extrêmement intéressant d'étudier ces solutions. Solutions qui sont très singulières. Bon, donc moi, c'est ce que j'avais voulu étudier à l'époque, et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris. Bon. Et donc, ça m'avait conduite à l'idée de développer une théorie de la sexuation en 3 temps. Donc, la sexuation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comment on devient homme ou femme. Donc, en 3 temps, entendez temps logique, hein, c'est-à-dire pas des temps chronologiques, des temps, des moments logiques. Donc, le premier temps, c'était l'anatomie. Bon. Donc c'est quelque chose qui est imposé. Alors, l'anatomie, mais c'est un piège, l'anatomie. C'est un piège parce qu'au fond, l'anatomie n'existe que quand elle est nommée, quand elle est reconnue. Donc au fond, ce premier temps, c'est un temps mythique, ce serait le temps de la nature, au fond, mais il n'existait que par rapport à un second temps, qui est le temps du discours, si vous voulez, qui d'une part est le moment, et au fond c'est tout le discours qui entoure l'enfant et qui même le précède dans sa venue au monde, c'est-à-dire, et donc fait partie aussi évidemment l'assignation du sexe à l'état civil, mais d'autres choses, le choix du prénom, qu'est-ce qu'on attend d'un enfant avant qu'il naisse, vous voyez, de quoi on va le faire héritier avant même qu'il soit même conçu, vous voyez, bon, toutes ces choses-là sont des choses symboliques au fond, et qui au fond ce moment c'est ce qu'étudie le constructionnisme social, hein, pour ceux qui connaissent un peu, sauf que le constructionnisme social se limite à des choses conscientes, il se limite beaucoup à l'éducation, à ce que transmet la société, des choses comme ça, alors que dans la psychanalyse on est forcément conduit à prendre en compte des choses beaucoup plus secrètes, hein, beaucoup plus cachées, qui ne sont pas forcément le discours explicite ni de la société, ni des parents, ni de la famille. Donc ça, c'est un deuxième moment très important. Et puis, bon, moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était un troisième moment, qui était les choix inconscients du sujet. C'est-à-dire, le choix, pour moi, mon idée, c'est que quand même... Alors, tout ce que je vous ai dit, le premier temps et le deuxième temps, c'est imposé, au fond. Hein. Le troisième temps, c'est au fond, qu'est-ce qu'un sujet ? Est-ce qu'il existe un choix ? C'est-à-dire, est-ce que... dans tout ça, on est complètement déterminé, ou bien est-ce qu'on a une possibilité quand même de choix ? Bon. Et donc, moi je pense que oui. D'ailleurs, si je pensais que non, il n'y aurait vraiment rien à faire. Ça ne serait même pas la peine de faire des psychanalyses. Si tout était imposé et qu'on ne pouvait rien faire, ça ne serait même pas la peine d'en parler, finalement. Hein. Alors, au fond, donc, mon idée, c'était qu'il existait des choix inconscients du sujet, et que ces choix, on pouvait les détecter, si vous voulez, par la les modes de, les positions, ce que Freud a appelé, par exemple, les positions sexuelles du sujet, j'y reviendrai, ou, bon, ce que Lacan peut appeler les modes de jouissance d'un sujet, modes de jouissance qui sont souvent incorporés dans des symptômes. Je vous donne deux tout petits exemples, deux petites vignettes pour vous montrer l'existence de ces choix qu'on peut constater à certains moments. Bon, une petite fille de 6 ans, qui avait 6 ans, que je connaissais, enfin qui était au fond quelqu'un que je fréquentais, pas une analysante, c'est une petite fille qui avait une identification virile très marquée à l'âge de 6 ans, et elle prétendait être un garçon. Elle disait qu'elle était un garçon et qu'elle se déguisait en fille parce qu'on l'obligeait à se déguiser en fille, mais que de toute façon elle était un garçon. Elle se faisait toujours offrir des déguisements de héros avec lesquels elle jouait inlassablement. Des arcs, des flèches, etc. Alors par ailleurs, cet enfant souffrait d'énurésie et la théorie psychanalytique classiquement associe souvent l'énurésie à une identification phallique très forte. À l'ambition, dit Freud, et bon, par là, quelque chose de phallique. Alors il aurait été tentant d'attribuer à son éducation un tel tableau clinique. C'était une fille de parents érudits. Elle baignait depuis sa naissance dans les épopées guerrières. Elle avait pris son biberon en écoutant Ulysse. Après, elle avait marché en écoutant l'Iliade. Enfin bon, etc., etc. Donc c'était une enfant élevée dans un milieu hyper cultivé et spécialement les récits mythologiques, etc. Mais bon, ce qui était notable, c'était les modèles qu'elle choisissait systématiquement dans ses histoires. Par exemple, c'était Ulysse et pas Pénélope, c'était Achille et pas Briséis. Briséis, c'est la fiancée d'Achille, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Briséis aux belles joues. Bon, elle était le prince, jamais la princesse. Or, ça pourrait être l'inverse chez une autre. Donc là, on constatait, même sans analyse, un choix décidé et précoce chez cet enfant. Choix qui s'est, puisque bon, c'est quelqu'un que je connais, donc c'est quelque choix dont j'ai le sentiment qu'il s'est maintenu malgré en effet l'acceptation tout à fait. Bon, c'est une enfant qui maintenant a 12 ans et elle est tout à fait déguisée en fille, habillée en fille, mais si on creuse un peu, bon, le discours est toujours là. Voilà. Et bon, ça pourrait être l'inverse chez une autre. Donc, présence d'un choix décidé assez précoce qu'on peut constater comme ça et qui, bon, qui n'empêche pas qu'elle mène une vie sociale tout à fait normale, etc., etc. Bon, on verra plus tard ce que ça donne. Un autre petit exemple que j'emprunte à La Bâtarde, d'un roman de Violette Leduc, assez autobiographique, dont Violette Leduc nous parle de sa relation ravageante à sa mère. Donc je cite le passage. « Elle m'offrait chaque matin un terrible cadeau, celui de la méfiance et de la suspicion. Tous les hommes étaient des salauds, tous les hommes étaient des sans-cœurs. Elle me fixait avec tant d'intensité pendant sa déclaration que je me demandais si j'étais un homme ou non. » On voit une phrase très courte. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un sujet qui est pris dans le discours maternel. Alors, la mère de Violette Leduc avait était fille-mère. Bon, donc, Violette Leduc a été élevée par sa mère, et avec, je ne sais plus si c'était la grand-mère ou la tante, j'ai oublié. Enfin bon, en tout cas, elle a été élevée par des femmes. Et donc, tous les jours, elle entendait un discours accusateur sur les hommes. Et donc, la position de la mère, c'était qu'elle était la victime des hommes qui abusent des femmes. Et donc, le choix, donc face au regard de sa mère, elle avait deux positions possibles. La position assumée par sa mère, victime potentielle des hommes abuseurs, et une autre plus improbable, face au regard intense de la mère, qui était celle justement du tourmenteur masculin, d'être le bourreau, enfin le pas le bourreau, mais l'abuseur. Et au fond, position plus improbable, mais que très certainement elle a eu tendance à adopter dans sa vie, quand on lit, enfin dans sa vie, en tout cas dans ce qu'elle transmet de sa vie dans ses écrits. En tout cas, il y avait chez elle quelque chose qui là l'avait prise. Bon, donc ça c'est pour vous montrer au fond comment un sujet pris dans un discours qui lui est totalement étranger a quand même a des degrés de liberté assez réduits, mais il a quand même un des degrés de liberté. C'est quand même des positions différentes possibles. Et Freud d'ailleurs fait allusion dès 1905 dans ses trois essais. Freud a toujours refusé de trancher entre les caractères innés et acquis pour l'homosexualité. Il appelait l'inversion à l'époque. Hein, inné, ça veut dire de naissance, acquis, ça veut dire que ce serait acquis par les accidents de la vie. C'était donc acquis, inné et acquis, était le débat dans les années 1900 qui a parfaitement continué sous d'autres formes après d'ailleurs, entre les tenants du tout biologique et les constructionnistes par exemple. Et donc Freud affirmait qu'il était nécessaire que quelque chose dans l'individu vienne soutenir ce qui apparaît comme acquis grâce à des multiples influences accidentelles. Au fond, donc, il y avait quelque chose dans le sujet, enfin, ce qu'on peut même dire le sujet, quelque chose qui venait dire oui ou non, au fond. Enfin, face à un trauma, il y a toujours une possibilité quand même de dire oui ou non et de réagir de manière différente. Voilà, donc bon, ça c'était donc une petite introduction sur la question de la sexuation, pour positionner un peu le problème du choix du sexe, de qu'est-ce que ça veut dire être homme ou femme. Alors, maintenant si on veut donc envisager ce troisième temps de la sexuation, du choix du sexe. Ce que nous dit la théorie psychanalytique, et Lacan ne vient pas s'opposer à ça, c'est que de manière normée, alors quand je dis de manière normée, ça veut dire par rapport au phallus, hein, c'est-à-dire par rapport à la norme phallique, norme qui est une norme, si vous voulez, qui n'est pas sociale complètement, c'est assez compliqué, c'est-à-dire que, au fond, on ne sait pas très bien. C'est reconduit certainement par la société, c'est retransmis, hein, c'est transmis en particulier par les mères, hein, faut pas l'oublier, mais c'est quelque chose qui semble-t-il existe dans toutes les sociétés et a toujours existé. Donc on ne peut pas non plus dire qu'il suffirait d'éduquer les enfants autrement pour que ça disparaisse. Ça me paraît un discours utopique. En tout cas, on peut toujours avoir des discours utopiques, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on n'ait jamais pu vérifier. Vous voyez ? Et donc quand on parle de ce que je vais vous dire, c'est quelque chose de normé, c'est-à-dire c'est pour des sujets qui s'inscrivent au fond dans un choix phallique, hein, ce que je vais vous dire pour l'instant. C'est-à-dire, je ne vais pas vous parler des sujets psychotiques, c'est-à-dire des sujets qui, au fond, s'inscrivent en faux, qui utilisent d'autres instruments pour être homme ou femme. Bon, ça, j'en ai parlé dans mon livre, mais je ne vais pas en parler ce soir, puisque je dois vous parler de la sexuation féminine classique, si vous voulez. Alors, on peut se demander, puisqu'il y a une seule fonction de référence, qui est la fonction phallique, hein, pourquoi est-ce qu'il y a deux sexes et pourquoi il n'y en a que deux et pas trois et pas cinq et pas quinze? Bon. Puisque finalement, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, on se décolle de l'anatomie. Hein, on se décolle de l'anatomie et donc on peut se poser la question à ce moment-là, si on n'est pas dans une théorie naturaliste, si on ne considère pas qu'on est homme ou femme à cause de son anatomie, pourquoi y aurait-il pas plus de sexes que deux à ce niveau-là? Et ce sont des idées aussi qui ont été avancées par justement les constructionnismes sociaux, les gens qui, comme Judith Butler par exemple, qui sont des théoriciens du performatif, bon, qui essayent de penser ça de cette façon. Alors par exemple les transsexualistes qui disent qu'ils sont une erreur de la nature et qu'ils ont un sexe différent dans leur tête du sexe qu'ils ont sur leur corps, et qu'au fond, finalement, il serait peut-être un troisième sexe. Ou puis des névrosés aussi, qui se sentent ni homme ni femme, tous ces cas d'ambiguïté sexuelle dont j'ai parlé. Moi, je préfère parler d'ambiguïté sexuelle. Alors, c'était d'ailleurs une revendication, celle d'un troisième sexe, qui existait déjà du temps de Freud. Hein. C'est pas du tout une nouveauté. Et ça existait même avant Freud. Hein. Ça existait vraiment chez les psychiatres et les sexologues du 19e siècle, ceux dont parle Foucault. Alors Freud a toujours réfuté l'idée du troisième sexe, et aussi il a toujours refusé de catégoriser l'homosexualité comme une structure à part, par deux arguments essentiels. D'une part, la bisexualité psychique dans chaque sujet, et d'autre part, sa découverte de la fixation infantile à la mère dans l'homosexualité masculine. Bon. Donc, il refusait pour cela de catégoriser l'homosexualité comme quelque chose d'à part. C'est-à-dire, au fond, il normalisait l'homosexualité, contrairement à ce qu'on peut penser souvent. Hein, il la réintégrait, au fond, dans des choix mis à l'intérieur d'un cadre commun. Et le troisième sexe, il ne voyait pas, si vous voulez, par rapport à quoi on pouvait le définir, quoi. Et lui, si vous voulez, sa position, c'était de renvoyer ces questions à l'étude du développement de la pulsion sexuelle. Toujours renvoyer à comment la pulsion sexuelle du sujet s'est développée, qu'est-ce qui s'est passé. Et par exemple, dans le cas de la jeune homosexuelle dont je vous avais un peu parlé au début de l'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il renvoyait son homosexualité à un accident de l'Œdipe et de sa relation à son père, en fait. Et lorsqu'il commentait ce cas, il séparait nettement ce qu'il appelait la position sexuelle. Alors la position sexuelle chez Freud, c'est l'identité sexuelle masculine ou féminine. Et donc il différenciait ça. Le mode du choix d'objet, c'est choisir un objet masculin ou féminin, c'est-à-dire être homosexuel ou hétérosexuel. Donc il considérait que c'est pas parce qu'on était un garçon homosexuel qu'on était féminisé, ou c'est pas parce qu'on était une fille homosexuelle qu'on était masculinisée, etc. Il considérait que c'était des séries indépendantes. Que le choix d'objet n'avait rien à voir avec les positions sexuelles, et que donc on pouvait être hétérosexuel en étant une femme, en fond. Un homme hétérosexuel pouvait être une femme. Une position sexuelle féminine, bon, par exemple. Et donc il notait que ce qu'il appelait des caractères, ces caractères variaient indépendamment les uns des autres. Donc ça impliquait déjà chez Freud en 1920 que le choix de la sexuation, le choix d'être homme ou femme, ne préjugeait pas du choix d'objet, hein, homosexuel ou hétérosexuel, et inversement. Bon, ce qui n'empêche pas de chercher dans chaque cas des relations entre tous ces points. Alors, chez Lacan, comment ça se présente? Chez Lacan, il a une position différente de Freud, mais il postule lui aussi l'existence de deux sexes. De sexe, ou qu'il appelle des options d'identification sexuée. Donc, dans le terme d'option, il y a aussi l'idée d'un choix, une option. Identification sexuée, ça veut dire s'identifier à un sexe. Hein. Ça ne veut pas dire que le sexe lui-même s'identifie par des points. C'est plus compliqué que ça. Bon. Et donc, lui, il dit qu'il s'appuie sur son expérience clinique et que ce sont deux inscriptions différentes, deux manières de s'inscrire différemment dans ce qu'il appelle la fonction phallique, c'est-à-dire le rapport au phallus. Et que ce sont deux positions qui correspondent à la jouissance. La jouissance du sujet. Alors la jouissance du sujet, c'est à la fois la jouissance sexuelle, mais aussi le mode de satisfaction qu'on peut déchiffrer dans ses fantasmes et dans ses symptômes. C'est pas uniquement la manière dont il jouit au lit, c'est ça que je veux dire. C'est quelque chose de plus compliqué que ça. Je ne dis pas que ça n'a pas une importance, ça a tout à fait une importance, mais c'est aussi ce qui peut se lire dans, se déchiffrer dans l'analyse, dans les fantasmes et les symptômes. Et donc ça se déchiffre, donc ça ne se voit pas forcément à première vue. Alors donc ces deux grandes différenciations, du coup, il s'est appuyé sur des écritures logiques pour les dire. Bon, je ne vais pas vous commenter ce soir ces écritures logiques parce que ça nous prendrait trop de temps et je préfère rester dans des choses un peu concrètes. Au fond, on peut dire que du côté homme, pour résumer très simplement, du côté homme, il considère que la jouissance est toute phallique, entièrement phallique. C'est schématique. C'est schématique et comme je vous le dis, c'est quelque chose de normatif. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Et puis, ce ne sont pas forcément les hommes anatomiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est assez compliqué. Disons, la position homme, c'est tout phallique, et la position femme, c'est pas tout phallique. Vous voyez, c'est simple. Bon, c'est très simple. D'un côté, on a une totalité, mais une totalité qu'il faut définir, et d'autre côté, un patou, ce qu'il appelle le concept du patou. Bon, mais concept, là encore, qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Bon. Et donc, il utilise pour ça donc des écritures logiques qui s'appellent les formules de la sexuation et que vous trouverez, pour ceux que ça intéresse, dans le séminaire publié encore. Vous trouvez ça dans le séminaire encore. Et aussi dans un autre texte qui s'appelle l'étourdi, qui est publié dans un recueil qui s'appelle Autres écrits. Mais bon, je crois que c'est plus simple dans encore. Enfin, plus simple, c'est une façon de parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour Freud, il faut quand même... Comment Freud, il faut revenir un tout petit peu à Freud. Pour Freud, c'était comment il différenciait les hommes et les femmes. C'était simple. C'était, il y avait le complexe d'Œdipe et le complexe de castration. Bon, le complexe d'Œdipe, c'est le fait pour la fille d'aimer son père et pour le garçon d'aimer sa mère. Bon, ça, c'était simplifié, parce qu'il y a aussi le pré-Œdipe. Mais bon, donc le complexe d'Œdipe et puis le complexe de castration. Le complexe de castration, c'est le fait pour les deux sexes, selon lui, croient à un moment donné qui s'appelle la phase phallique qu'ils ont un phallus. Ils croient d'ailleurs que le phallus est universel. Ils croient que tout le monde a un phallus, les chats, les chiens, les hommes et les femmes. Bon. Et particulièrement les femmes. Bon. Enfin, là où la croyance est particulièrement folle, c'est sur les femmes. Bon. Donc ils pensent que tout le monde a un phallus. Et sur le fond de cette croyance, donc ça c'est ce que Freud appelle la phase phallique, sur le fond de cette croyance donc universelle, cette espèce de délire, si vous voulez, que Freud appelle les théories sexuelles infantiles, eh bien, il se masturbe, donc c'est associé à une satisfaction sexuelle, à une représentation donc imaginaire, et à une croyance, c'est-à-dire quelque chose d'intellectuel, une théorie. Hein, une théorie. Et donc, le complexe de castration, c'est le moment où tout ça se casse la figure. C'est-à-dire, c'est le moment... Alors, ça se casse la figure comment? Ça se casse la figure... dit Freud, par la perception, à un moment donné, ça rentre en contradiction avec la perception, c'est-à-dire l'enfant s'aperçoit que là où il voudrait voir, où il s'attendrait, où il voudrait voir un pénis, il n'y en a pas. Bon. Donc, à ce moment-là, un certain nombre de réactions ont lieu, qui ne sont pas les mêmes pour les garçons et pour les filles. Et donc, au fond, Freud a différencié les garçons et les filles par le mode de développement articulé à l'anatomie, puisque l'anatomie, dans cette affaire, est très importante. L'anatomie des femmes, particulièrement, hein, puisque c'est sur la vue de l'organe féminin que toutes les théories se cassent la figure. Bon. Donc, les filles, eh bien, en gros, bon, non, les garçons d'abord, parce qu'il a d'abord parlé des garçons, au fond, un garçon normal, pour Freud, c'est un garçon qui préfère son pénis à sa mère. Voilà. C'est-à-dire, un garçon normal doit préférer son organe à sa mère, et donc il doit renoncer à sa mère parce qu'il a peur de perdre son organe. Il a peur de perdre son organe parce qu'il a vu que d'autres ne l'avaient pas et que donc il était menacé. Voilà. Donc, ça veut dire que les garçons sortent de l'Œdipe par la castration. La fin de l'Œdipe chez les garçons, c'est le complexe de castration. Pour les filles, ça se passe dans le sens contraire, c'est-à-dire les filles sont attachées d'abord à leur mère, c'est le pré-Œdipe, elles s'aperçoivent à un moment donné que ni elles ni leur mère n'ont de pénis, et à ce moment-là, elles se détournent de la mère. Alors ça, c'est le complexe de castration féminin. Le complexe de castration féminin, c'est, pour Freud, l'entrée dans le fait qu'elles veulent l'avoir quand même. C'est ce qu'il appelle l'envie du pénis. Donc les filles, au fond, sont dans le pré-Œdipe, elles rencontrent la castration, donc elles passent d'abord par le complexe de castration, et c'est ce complexe de castration qui les fait rentrer dans l'Œdipe, c'est-à-dire se tourner vers le père, qui est, lui, porteur du phallus. C'est d'abord elles, qui s'aperçoivent qu'elles n'ont pas de pénis, puisque bon, pour Freud, la femme a un rapport au réel beaucoup plus fort que l'homme à ce niveau-là, c'est-à-dire que la fille comprend tout de suite, elle s'aperçoit assez vite. Alors que le garçon, non. Le garçon construit des tas de mythes et des tas de, par exemple, des fétiches pour se convaincre que la mère l'a quand même, etc. etc. Bon. Donc, enfin là, je vous disais simplement pour montrer. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que sinon je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'à la duplicité de la jouissance féminine. Mais au fond, quand vous lisez Freud, bon, des articles qui sont dans la vie sexuelle, le recueil de la vie sexuelle, vous avez un certain nombre d'articles qui sont assez faciles à lire. Pour Freud, c'est inversé, c'est-à-dire les garçons sont dans l'Œdipe, ils en sortent par la castration, les filles sont dans le pré-Œdipe, elles rencontrent la castration, d'abord la leur, puis celle de leur mère, et c'est quand elles rencontrent la castration de leur mère, c'est toujours la castration de la mère, parce que j'appelle castration, c'est entre guillemets, ça veut dire castration par rapport à ce que l'enfant imagine, aux représentations mentales qu'il s'est forgées avant. Et donc, quand elles rencontrent ça, elles passent au père, bon, enfin, dans certains cas, dans d'autres cas, elles n'y passent pas, donc elles passent au père et elles rentrent dans l'Œdipe. Donc, si vous voulez, vous avez un schéma inversé, vous avez Œdipe castration pour les garçons, castration Œdipe pour les filles. Et donc, finalement, c'est le développement articulé à l'anatomie qui fait la différence sexuelle chez Freud. Bon. Donc, chez Lacan, c'est un peu différent, puisque donc, il veut se décoller de l'anatomie. Donc, ça l'oblige à faire les choses autrement, d'où cette référence à la jouissance. Mais à la jouissance inscrite, comme je vous l'ai dit, dans les symptômes et les fantasmes. Donc, d'un côté, il va y avoir ceux qui seront entièrement pris dans la fonction phallique, les hommes, et de l'autre côté, ceux, les individus, qui ne seront pas complètement pris dans la fonction phallique, et comme ils ne sont pas complètement pris dans la fonction phallique, ils sont aussi pris dans autre chose. C'est ça la duplicité. La duplicité, c'est le dédoublement de la jouissance chez les femmes. Donc chez les hommes, quelque chose de monolithique, et chez les femmes, quelque chose qui le serait moins. Bon. Alors chez les hommes, je vous parle un peu des hommes, c'est difficile de parler d'un sexe sans parler de l'autre. Pour les hommes, finalement, Lacan reprend, il reprend Freud, hein, il reprend le mythe freudien de totem et tabou. Donc c'est un texte que Freud a écrit en 1912 et qui est donc une sorte de grand mythe darwinien dans lequel il aurait existé au départ une horde primitive dirigée par un père sauvage et cruel et donc ce père possédait toutes les femmes, y compris ses filles, et il empêchait ses fils d'y avoir accès. Bon. Et donc les fils se révoltent, tuent le père. Et donc il tue le père pour avoir les femmes, pour prendre les femmes. Mais une fois qu'ils ont tué le père, ils s'aperçoivent que s'ils veulent les femmes, ils vont s'entretuer. Et donc à ce moment-là, ils renoncent tous ensemble aux femmes, aux mères quoi, en gros. Ils renoncent tous ensemble aux femmes et ils font une sorte de contrat social. Donc pour Freud, c'est le début de la société. Hein, le début de la société, c'est le moment où les fils décident de renoncer tous ensemble aux femmes pour lesquelles ils avaient tué le père. Et c'est aussi le début de la religion, de manière parallèle, différente, c'est le début de la religion, puisque pour Freud, les religions monothéistes, en tout cas, sont basées sur une sorte de... Bon, parce qu'enfin, une fois que les frères ont fait ça, ils se sentent coupables, ils ont des remords, puisqu'ils ont tué le père, et donc, au fond, ce serait le fondement du monothéisme. Bon, je simplifie là aussi. Mais bon, c'est intéressant, parce que dans le même texte, vous avez la société et la religion, qui sont différenciées, c'est pas la même chose, mais qui sont corrélées dans un mythe commun. Quoi. Mais ils renoncent pas aux femmes, ils renoncent à toutes les femmes. Bah, ils renoncent aux femmes pour lesquelles ils ont tué, c'est-à-dire à leur mère. Puisque si vous voulez, vous avez une structure, vous avez le père primitif qui possède toutes les... Donc ils renoncent aux mères, c'est ça que ça veut dire. Ils renoncent à ce que possédait le père. Bon, après, évidemment, ils vont... Là, c'est ça, c'est le mythe, au fond. Alors, Lacan le réinterprète comme un mythe, bien entendu. Ce mythe, c'est quoi? Ce mythe, ça veut dire que pour devenir un homme, il faut avoir été châtré. Voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, alors qu'est-ce qu'il appelle être châtré dans l'histoire? Après, c'est renoncer aux femmes. C'est-à-dire qu'en fait, les fils, au fond, qui combattaient, qui voulaient tuer le père pour avoir les femmes, renoncent aux femmes. C'est une castration. Hein? Et c'est grâce à ça qu'ils deviendront des hommes. Donc c'est au fond, si vous voulez, le mythe de la castration, c'est ça. C'est-à-dire pour l'enfant, c'est pareil, pour le petit garçon, c'est la même chose. C'est le fait qu'il renonce à la mère, qui est une castration pour lui, mais c'est ce renoncement qui lui permettra, promesse dans le futur, de devenir un homme plus tard, d'avoir des femmes plus tard. Bon. Donc, c'est le mythe de la castration qui dit finalement qu'il n'y a pas de virilité sans castration, symbolique de la castration. Donc ça, c'est le côté homme, et donc c'est ce que prend Lacan, et au fond, il dit que ça veut dire, bon, c'est un peu comme quand Freud dit que le garçon sorte de l'Œdipe par la castration, ça va prendre toute leur sexualité, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y aura pas d'échappatoire pour eux, c'est un verdict sombre d'ailleurs, il n'y aura pas d'échappatoire pour eux, et c'est un verdict sombre parce que ça veut dire finalement que, d'une certaine façon, ils sont mariés avec leur queue. Je le dis de manière un peu vulgaire, je m'excuse, mais c'est un peu ça que ça veut dire. C'est-à-dire, ça veut dire finalement, ils n'auront accès à la femme toujours, qui sont toujours centrés sur le rapport au phallus. Donc c'est un verdict très, très dur. Alors, il faut bien dire que pour Lacan, de toute façon, la vision lacanienne de la sexualité est une vision assez pessimiste. Enfin, pas pessimiste, mais c'est pas une vision. C'est une vision qui est basée quand même sur l'idée qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à attendre une harmonie entre les sexes préétablis, ni autre chose que des bricolages très individuels. Quoi. C'est-à-dire, au fond, il n'a pas l'idée qu'il y aurait une loi. Quand il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, où il y aurait un instinct qui nous programmerait vers l'autre sexe. Il n'y a pas d'instinct qui nous programme vers l'autre sexe. Il n'y a que des programmes individuels fabriqués de briques et de brocs avec le discours des parents, le discours social, ses propres choix, etc. Enfin, comme les petits exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc pour les garçons, au fond, quand on dit sexualité toute phallique, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle est marquée par la castration d'une manière tellement forte. A été pour eux une telle épreuve, au fond, ça que ça veut dire. Une femme, lui, sera toujours abordable à partir d'un fantasme et toujours à partir d'une jouissance qui reste phallique. Alors, pour Lacan, évidemment, il y a toutes les versions. Donc, à partir de là, il y a tout ce qu'a déjà dit Freud et que reprend Lacan sur le clivage de la vie amoureuse chez l'homme. Par exemple, si vous prenez le clivage de la vie amoureuse chez l'homme, qui est considéré comme quelque chose, là aussi, de structurellement normal pour Lacan, c'est-à-dire la double vie. Enfin, c'est pas forcément réalisé dans une double vie, mais au fond, une tendance. Une tendance qui va être... ce que Freud disait déjà, au fond, Freud appelait ça le courant tendre et le courant sensuel, et qu'au fond, pour un homme, il va y avoir, par exemple, une femme qui va être aimée, elle va être aimée comme châtrée, c'est-à-dire comme privée, il va l'aimer pour ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle n'a pas et qu'il peut lui apporter, donc de phallique, donc cette femme sera aimée, et puis, le fait que justement elle soit marquée pour lui de la castration l'empêchera de la désirer. Donc, il aura tendance à désirer ailleurs, donc avec une sorte de divergence de sa vie amoureuse, où il y aura une série de femmes désirées et femmes aimées. Bon, c'est pas forcément réalisé concrètement, je ne veux pas dire que tous les hommes ont une double vie, hein, mais c'est une tendance. Voilà. C'est une tendance qui est plus ou moins réalisée et plus ou moins fantasmatique. Et bien, dans ce cas-là, on voit que deux sont marqués par le phallus. C'est-à-dire, il y en a une qui est châtrée, qui est considérée comme manquante, privée, et celles qui sont désirées, c'est ce que dans la psychanalyse on a appelé les girl phallus, c'est-à-dire les femmes phalliques. C'est la division que fait Freud entre la prostituée, la mère et la maman et la putain. La maman d'un côté, celle qui est châtrée, c'est la mère qui est aimée, et puis celles qui sont désirées, c'est celles qui ne le sont pas et qui se présentent comme en leur entièreté équivalentes du phallus. Bon, donc ça, vous connaissez ces histoires-là, puisque c'est le sujet de plein de films et de plein d'histoires. Alors, pour le maintenant, le côté femme, qui était la chose qui nous intéressait ce soir, eh bien, vous savez que Freud a passé sa vie à expliquer qu'il comprenait rien à la féminité, et qu'encore dans les années 30, alors qu'il était à la fin de sa carrière et de sa vie, il écrivait à Marie Bonaparte, je crois que... c'est ce que j'ai repris d'ailleurs dans le titre de la série de ces conférences. Il écrivait que ce que veut la femme était resté pour lui une énigme qu'il ne pouvait pas résoudre. Eh bien, Lacan, donc, ce fameux patou, en fait, c'est quelque chose d'assez sophistiqué. Moi, je vous l'ai présenté, je vous le présente de manière assez triviale, mais au fond, c'est quelque chose qu'il a trouvé dans Aristote. C'est-à-dire, bon, c'est un concept de logique que Aristote n'a pas développé, qui n'a pas été développé, et dont Lacan fait une sorte de symbole qu'il écrit avec les quantificateurs, c'est dans la logique... Vous savez, il y a deux quantificateurs en logique, le quantificateur d'existence, existentiel, et le quantificateur universel. Le quantificateur universel, ça s'écrit comme un A à l'envers. Et donc Lacan a fabriqué, il a pris ce A à l'envers, il a mis une barre dessus, qui est la barre de la négation, et donc il a fabriqué ce concept du patou. Bon. Au niveau logique, donc ça a ses racines dans Aristote, au départ. Comme ça, je vous le dis, si ça vous intéresse pour creuser, mais on ne va pas le faire ce soir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la sexualité féminine est pas toute phallique ? Eh bien, Lacan a insisté pour les femmes sur la contingence du phallus. C'est-à-dire que leur rapport... Alors, ce qu'il appelle une femme pas toute phallique, donc on parle des femmes, là, qui ont un rapport au phallus. Hein, je parle des femmes qui ont un rapport au phallus, sachant qu'il y a des femmes psychotiques qui rejettent complètement le phallus à un niveau inconscient. Donc, c'est pas de celle-là dont je parle. Je parle des femmes qui ont un rapport au phallus et qui sont pas toutes phalliques. Pas toutes phalliques, ça veut dire qu'elles ont un rapport au phallus. Pas tout, ça implique qu'elles en ont un. Bon. Alors ce rapport, déjà, est contingent et pas nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des interruptions, par exemple. Ça veut dire que leur rapport au phallus est quelque chose qui est varié. Hein, il y a des mêmes endroits où on a le sentiment que Lacan pense que finalement il faut que ce phallus soit incarné quelque part pour que ça fonctionne. Que s'il n'est pas incarné quelque part, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'une femme, bon, finalement, pourrait à certains moments être dans un désert phallique. Quoi. Bon. Et, bon, alors il donne des petits. Je vais vous donner quelques exemples. Bon, par exemple, un exemple que donne Lacan, c'est l'exemple de Médée. Bon, je pense que vous connaissez la tragédie de Médée. Donc, Médée, c'est une reine. Une sorcière aussi, c'est la fille du soleil, et donc je vous résume très rapidement. Et donc elle a deux enfants avec Jason, Jason dont elle a fait la carrière, c'est-à-dire elle a mis Jason sur un piédestal. Bon. Et donc là je vous parle de la version d'Euripide. Donc, alors vous savez ce qui se passe, c'est que Jason trompe Médée et prétend en épouser une autre. Alors qu'il a ses deux enfants, etc., avec elle, et que c'est elle qui l'a mis sur un piédestal, grâce à son savoir de sorcière en particulier. Et donc Médée, à un moment donné, elle va tuer ses enfants. Elle va tuer ses enfants, elle va tuer aussi sa rivale, mais surtout elle va tuer ses enfants. Et donc la question, c'est pourquoi Médée tue-t-elle ses enfants? Pourquoi est-ce qu'elle les tue? Eh bien, quand dans la pièce, Médée explique qu'elle tue ses enfants... Parce que c'est ce qui va briser le plus le cœur de son mari. C'est-à-dire, elle tue ses enfants qu'elle aime pour se venger de son mari. C'est-à-dire, elle lui tue ce qu'il a de plus précieux, ses fils. Voilà. Donc, c'est ça le raisonnement de Médée. Eh bien, on peut considérer, bon, ça c'est un exemple de qui n'obéit pas à une logique phallique. Dans quelle mesure il n'obéit pas à une logique phallique? C'est que, pour la mère, donc Médée est une mère, pour la mère, les enfants, là encore de manière normative, hein, c'est-à-dire dans la règle, les enfants ont une valeur phallique et sont aussi des objets précieux. Hein. Ce sont des objets précieux qui ont une valeur phallique. Bon, ça, c'est la fameuse, c'est la reprise de la théorie freudienne qui veut que la fille, quand elle rentre dans l'Œdipe, elle veut un enfant du père qui est un substitut du pénis dont elle a constaté qu'elle ne l'avait pas. Donc l'enfant prend et revêtu d'une valeur phallique pour les mères. Et donc ils sont doublement précieux, puisqu'ils sont en plus des objets singuliers qui correspondent à des fantasmes et à des désirs plus singuliers à chacune. Eh bien, au moment, si vous voulez, par exemple, pour Freud, ça c'est une différence intéressante entre Freud et Lacan, pour Freud, l'amour maternel est un amour total. C'est-à-dire Freud considère que tous les amours sont ambivalents, sauf l'amour des mères pour leurs fils. C'est quand même une aberration totale, il faut quand même bien dire. Mais lui, il avait cette conviction, alors est-ce que c'est pour des raisons... il idéalisait l'amour maternel, donc peut-être parce que lui-même était le fils aîné de sa mère et... avait été vraiment un enfant désiré particulièrement, mais enfin bon, probablement aussi pour d'autres raisons. En tout cas, bon, lui, pour lui, l'amour maternel, c'est vraiment le modèle de l'amour sans ambivalence. Bon. Et donc, si on reprend le cas de Médée, donc finalement, c'est au fond le moment de l'acte de Médée, c'est un moment où on peut dire qu'il y a une disjonction entre le fait qu'elle soit une femme et le fait qu'elle soit une mère. Parce que finalement, elle tue ses enfants comme femme trahie. Comme elle est une femme trahie, elle les tue, et au fond, elle passe par-dessus le fait qu'elle est une mère et que ses enfants devraient pour elle avoir la valeur suprême. Vous voyez ? Donc ce sont des, au fond, bon, je ne veux pas dire que la duplicité de la jouissance féminine se manifeste toujours de cette façon-là. Bon, dans la psychanalyse, on prend toujours des exemples un peu extrêmes pour expliquer les choses. Hein. On part toujours de ce qui est le plus pathologique. Je ne voudrais pas vous affoler. Mais au fond, si vous voulez, c'est un très bon exemple. Parce que c'est un exemple où on voit une femme qui obéit à une logique phallique toute sa vie. C'est-à-dire, elle est la fille du soleil, elle prend un homme, elle lui fait sa carrière, elle lui fait deux enfants, vous voyez ? Elle obéit à une logique phallique. Et puis, à un moment donné, elle est trahie comme femme, puisqu'il en aime une autre. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui compte que ça. Et à ce moment-là, bon, elle tue ses enfants. Voilà. Elle aurait pu faire d'autres... Mais il y avait des tas de modes de vengeance envisageables. Elle aurait pu tuer le type, la fille, et puis garder ses enfants et partir avec. Vous voyez ? Si elle avait fait ça, elle serait restée dans la logique phallique. Mais là, eh bien, il y a une sorte de disjonction qui s'opère, où on voit que la femme et la mère sont différentes. Et on voit que... et la femme n'hésite pas à tout perdre. Elle n'hésite pas à tout perdre parce qu'au fond, elle est comme quelqu'un qui n'a rien à perdre, vous voyez ? Hein ? C'est une autre sorte de logique, quoi. C'est une logique qui sort du cadre phallique. Bon, donc je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple, au fond, où on voit que c'est une question logique, c'est-à-dire que c'est un acte qui rompt avec la logique phallique maternelle. Et bon, même dans des choses moins graves, on peut observer ça dans la clinique féminine. Lacan, d'ailleurs, a évoqué cet acte à propos d'André Gide. C'est à ce propos qu'il parle de l'acte de Médée. Et justement, c'est beaucoup moins tragique. Bon, il dit l'acte de la femme, il parle de l'acte de la femme de Gide, Madeleine. Vous savez que Gide était marié avec donc Madeleine Gide et qu'ils n'ont jamais consommé leur mariage. Et que Gide, par ailleurs, aimait les petits garçons et donc avait régulièrement des relations avec des adolescents. Et sa femme le savait. Elle le savait depuis même leur mariage. Bon. Et donc, elle fermait les yeux. Elle fermait les yeux. Par contre, il n'aimait qu'elle. Hein. Et ça a duré pendant assez longtemps, jusqu'au jour où Gide est tombé amoureux d'un garçon. Je crois que c'était Marc Allégret, d'ailleurs. Et donc, ce jour-là, elle l'a vu dans ses yeux. Enfin, elle s'en est aperçue de manière assez... comme ça, comme quand on connaît quelqu'un et qu'on s'en aperçoit. Et donc à ce moment-là, il lui a laissé paraître. Alors vous voyez, c'est pas sexuel. Hein, c'est pas quelque chose de sexuel, puisqu'il n'y avait pas de sexualité. Enfin, il n'y avait pas en tout cas de consommation sexuelle entre eux. C'est pas donc la sexualité au sens classique du terme. C'est sur le plan de l'amour. Et donc ce jour-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle brûle toutes les lettres que Gide lui avait adressées. Et donc c'est cet acte que Lacan qualifie d'acte d'une vraie femme. C'est par rapport à ça qu'il parle de l'acte de Médée. Qui paraît hors de propos. Enfin, ça paraît hors de proportion, en tout cas. Et en fait, ça ne l'est pas parce que il faut savoir ce que c'était que ces lettres pour Gide. Gide ne gardait pas de double de ses lettres. C'était des lettres qu'il envoyait à Madeleine et que Madeleine gardait dans une petite cassette qu'elle gardait toujours avec elle. C'est presque comme si elle était enceinte, si vous voulez, c'est comme un coffre, vous voyez, c'est la cassette qu'elle avait toujours avec elle, et de temps en temps, il lui demandait la permission de regarder telle lettre, parce que bon, il faut savoir que Gide, quand il écrivait, il avait sa correspondance, il avait ses romans, et puis il avait son journal. Et au fond, tout était écrit en triple, d'une certaine façon, c'est-à-dire on a toujours une triple version des choses, même plus quand il y avait plusieurs correspondances. Mais en tout cas, les choses sont reprises comme ça à différents niveaux. Et les lettres à Madeleine, c'était vraiment quelque chose, si vous voulez, c'était une référence pour lui. C'était au fond, comme leur enfant, quoi, vraiment. Hein. Et le fait qu'il n'y ait pas de double, ça marquait justement ce côté. Et quand on lui demande pourquoi, quand il demande à Madeleine pourquoi elle a fait ça, elle lui répond simplement « j'ai dû faire quelque chose ». Et c'est une phrase totalement banale, j'ai dû faire quelque chose. Et Lacan voit dans cette phrase, justement, il dit, le signe du déchaînement que provoque la seule intolérable trahison. Quelque chose qui se déchaîne, voilà, qui se déchaîne à ce moment-là. Et elle sait très bien où il faut frapper. Voilà. C'est-à-dire, elle sait très bien que là où elle va vraiment le mettre à mort, si on peut dire, c'est en brûlant ses lettres. C'est ce qu'elle peut faire de plus cruel. Et Gide, après la mort de Madeleine, il a écrit un texte qui est assez beau, qui s'appelle Et Manet Inte, je crois, quelque chose comme ça, qui est publié dans son journal, et où il pleure encore ses lettres perdues. Enfin, quelque chose comme s'il avait. Il parle d'un trou ardent, de quelque chose qui a comme creusé un trou en lui, vous voyez. C'est-à-dire, le brûler ses lettres, ça a creusé en lui un trou, le trou vraiment de. Au fond, l'objet précieux, la chose la plus intime qu'on vous a arraché, comme si on vous avait arraché le cœur. Quoi, oui. Et donc, c'est ça, au fond, c'est cette logique-là qui est un exemple pour Lacan, au fond, ce sont de quelque chose qui se déchaîne, qui n'est pas lié au phallus. Alors, effectivement, le phallus, c'est quelque chose de normé. C'est quelque chose qui norme les relations, si vous voulez, entre les sexes. Lacan disait l'homme et la femme n'ont pas de rapport entre eux, mais ils ont tous les deux rapport au phallus. Voilà. Et justement, le phallus, c'est l'obstacle. C'est le médiateur qui est l'obstacle. Vous voyez ? Et donc, au fond, ce qui n'est pas lié au phallus prend des caractères de déchaînement, de folie, pas forcément d'actes criminels. Hein, brûler des lettres, rien de plus. Des lettres qui vous appartiennent en plus. C'est votre droit le plus strict, finalement. Donc, ce n'est pas forcément sur un plan légal. C'est quelque chose d'autre. C'est une sorte d'intuition qui va toucher le point fort. Et là, c'est sous forme d'acte. Mais ça signifie, finalement, que cette duplicité de la jouissance féminine peut se manifester comme ça dans des déchaînements, des déchirements, plus ou moins graves, mais qui sont des éclipses de la fonction phallique. Alors bon, là, vous avez deux exemples. Vous avez l'exemple mère-femme avec Médée. Là, avec Madeleine, c'est pas mère-femme, c'est femme aimée trahie. Enfin, dans les deux cas, il y a une trahison. Trahison de l'amour, qui, en général, est d'ailleurs effectivement quelque chose qui est assez mal toléré par les femmes. Par les hommes aussi, mais... Oui, non, c'est mal toléré par les hommes, mais si vous voulez, on peut dire, par exemple, quand Othello tue Desdémone, c'est pas la même chose, vous voyez ? C'est plus classique, quoi. Une jalousie féroce, folle, mais bon, bah, il tue son objet, voilà. Vous voyez, ça reste dans le cadre phallique, finalement. Ça reste dans... Hein ? Quoi ? Bah, c'est plus... Ça obéit à une certaine logique, si vous voulez, plus dans l'ordre de « je possède un objet, s'il ne fait pas ce que je veux, je le tue, je le détruis. Je détruis mon objet, vous comprenez ?» C'est plutôt ça. C'est pas tout à fait le même style de complexité, voilà. Je dis pas que l'un... C'est pas un jugement de valeur, je dis pas que l'un est mieux que l'autre. C'est pas sur ce plan-là. On essaye de comprendre, au fond, des logiques différentes. Qui amènent toutes les deux à des actes aussi effroyables, enfin qui peuvent amener à des actes aussi effroyables. Si vous voulez, il y a quelque chose, par exemple, chez Othello, c'est l'aveuglement. Othello est aveugle, d'ailleurs il la tue pour rien en plus. Il est complètement, il est dans ses fantasmes. Voilà. c'est la logique masculine. Et dans ses fantasmes, il la tue pour rien, parce qu'il pense qu'elle a failli à sa possession, au fait qu'elle lui appartienne. Alors que dans le cas de Médée ou de Madeleine, il y a une lucidité terrible. Et au fond, c'est ça que Lacan dit, c'est qu'au fond, elle devine exactement ce qui va le plus faire de mal. Il y a une inventivité, si vous voulez, terrible dans le, justement, dès qu'on échappe à la norme phallique. Bon, donc ça, c'est un exemple extrême. Hein. Alors, il y a des exemples quand même moins extrêmes, hein, moins terrifiants. Alors, je vais d'abord vous donner deux autres exemples. Au fond, Lacan donne d'autres exemples dans Encore, il donne l'exemple des sujets mystiques. Hein. Le dédoublement de la jouissance, pour lui, donc c'est d'une part qu'il y a une part phallique et d'autre part une part autre. Il appelle ça l'autre jouissance avec un grand A. L'autre jouissance. Alors qu'est-ce que c'est que l'autre jouissance? Il donne comme exemple la jouissance mystique, la jouissance des mystiques qui ne sont pas forcément des femmes anatomiques comme Saint Jean de la Croix ou bien Sainte Thérèse d'Avila, en disant qu'au fond, il y a un rapport à Dieu, à un autre divin, mais qui a un rapport évidé. C'est-à-dire que ce n'est pas le rapport à Dieu le Père. Vous voyez, c'est un autre rapport, c'est une sorte de rapport de jouissance, puisque les mystiques jouissent de la présence divine, mais ils en jouissent d'une manière évidée, c'est-à-dire ils en jouissent quand ils en parlent, quand ils écrivent, ils expliquent que c'est sans représentation, c'est dans un vide de la pensée, c'est dans un vide de l'image. Vous voyez, c'est quelque chose où on doit supprimer, au fond, toutes les déterminations imaginaires et symboliques pour arriver à quelque chose de réel qui serait un vide réel. Bon. Et donc, finalement, il dit que ça, c'est un paradigme de la jouissance féminine. C'est-à-dire, un paradigme, ça veut pas dire que les femmes sont toutes mystiques, mais ça veut dire qu'elles ont un versant mystique, c'est-à-dire elles ont un versant... Donc cette autre jouissance, si vous voulez, il faut d'abord dire que c'est difficile d'en parler et difficile de la saisir, puisque justement, elle n'est pas corrélée au phallus, c'est-à-dire aux représentations que donne l'inconscient. Puisque l'inconscient, lui, il est toujours phallique. L'inconscient, il fabrique tout avec... Il fabrique toujours de la signification phallique. Hein. C'est toujours châtré, pas châtré, passif, actif, on ne sort pas de ce genre de choses. Donc l'autre jouissance, on est obligé de l'attraper autrement, par le discours, par des actes, par des choses qui ne sont pas les formations de l'inconscient exactement. D'où la difficulté. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas si facile que ça de saisir ça. Et je vous donne des exemples extrêmes en vous disant en même temps que c'est qu'une structure de base. Hein. Donc chez une femme donnée, ce n'est pas un truc exceptionnel non plus. Bon. Donc, quand il parle des mystiques, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça serait donc un versant de la jouissance qui serait pas lié à des représentations, qui serait lié donc à la présence d'un autre, mais d'un autre qui serait pas le père du tout, qui n'est pas du tout le modèle du Dieu le père, mais un autre évidé comme les mystiques, comme la jouissance mystique. Alors, je vais quand même vous donner un exemple de ça tout à l'heure, concrètement. Donc il donne cet exemple-là, je vous dis un autre exemple qu'il donne dans Encore, ça va vous faire hurler, c'est la frigidité féminine. Il dit que finalement, les femmes frigides, enfin qui se disent frigides, il ne faut pas forcément les croire qu'elles jouissent, que peut-être elles jouissent justement de cette autre jouissance, et que du coup, ça ne les intéresse pas forcément, la jouissance phallique. Voilà. Bon, alors ça, c'est à prendre avec des pincettes, si je puis dire, c'est-à-dire, bon, faut... Il y a des femmes qui ne supportent pas d'être frigides, même si elles jouissent de cette fameuse jouissance autre ou de jouissance supplémentaire. Donc il faut entendre ça. Enfin voilà, donc ça serait une jouissance comme ça qui ne se représente pas et donc qui est autre dans ce sens-là. Alors je vous ai donné l'exemple de Médée, je vais vous donner un exemple contemporain où vous allez voir un peu le même style que dans Médée. Même si ce n'est pas aussi grave, mais on voit le même style de décrochement de logique. Donc c'est une jeune femme que j'ai rencontrée, qui était venue me voir parce qu'elle était ravagée par une rupture récente avec son mari. Donc ce mari l'avait laissée pour une autre femme. Et au fond, ce qui m'avait frappé d'emblée, c'était la part active qu'elle avait prise à cet abandon, à cette affaire. C'est-à-dire qu'au fond, dans ce cas-là, le terme de complicité n'était pas trop fort pour qualifier la façon dont elle avait soutenu sa rivale auprès de son mari. Donc j'appellerai Myriam cette jeune femme. Elle disait qu'elle avait une relation de communion et de connivence avec son mari. Il commençait une phrase et je la finissais. Le jour même où il la trompe, elle le devine et il confirme qu'effectivement il l'a trompée. Elle devient à ce moment-là la confidente de son mari qui lui raconte donc son histoire avec la rivale. Et elle avait le sentiment ou l'impression que cette autre femme était une sorte de double et qu'elle finirait, comme dans les histoires fantastiques, par l'éliminer. Par exemple, un jour, elle la croise dans un magasin, elle la reconnaît immédiatement par les descriptions du mari et elle éprouve une impression presque surnaturelle qui lui cause un moment de dépersonnalisation, une sorte de ce que Freud appelle l'inquiétante étrangeté. Alors la clé de cette complicité étonnante se trouvait dans la relation de Myriam à son père. Le père était un admirateur de la Russie. Et dès son enfance, elle avait été la complice exclusive de cette passion paternelle pour la Russie. Plus tard, elle fait des études et elle fait une thèse sur les pays de l'Est parce qu'il lui fallait un petit déplacement par rapport au goût de son père. Donc c'est pas la Russie, c'est les pays de l'Est. Or, la femme que rencontre son mari est russe. Donc lui, il rencontre une russe. Et au fond, à ce moment-là, elle avait l'impression de tout savoir d'elle. Et cette impression d'inquiétante étrangeté, c'était un peu comme si vous voulez, elle re-rentrait dans la relation passée avec son père. C'est ça qui expliquait ce sentiment d'étrangeté. Elle s'identifie complètement à la passion de son mari pour la jeune femme et elle s'oublie elle-même. Elle va jusqu'à organiser la vie commune du couple et à leur confier ses enfants plus de temps qu'on ne le lui demande, alors qu'elle avait énormément de mal à se séparer de ses enfants. Parce que le raisonnement, c'était que c'est pour pas les priver de leur père. Puis, bon, un jour, elle se retrouve seule, forcément. Et à ce moment-là, elle se sent brutalement face à un vide insupportable et lui passe dans la tête l'idée de ce qu'elle appelait un suicide altruiste, c'est-à-dire se tuer avec ses enfants. Elle a donc ce truc qui la traverse comme ça, et à ce moment-là, bon, elle a très peur, ça lui fait horreur, et c'est à ce moment-là qu'elle vient me voir. Bon. Donc quelque chose là d'une idée, d'un fantasme insupportable pour elle. Et au fond, donc, elle décrivait bien le surgissement dans le vide qu'elle avait éprouvé à ce moment-là, de cette dimension meurtrière. Donc au fond, c'est quelqu'un qui frôle un passage à l'acte. Il y a des gens qui le font. C'est pour ça que je dis qu'il y a des femmes qui le font, ce sont des choses qui arrivent. Au fond, quand on le fait, c'est m'aider, quoi. Bon. Il y a des femmes qui le font, mais là, donc, il y a des femmes infanticides, elles frôlent le passage à l'acte. Alors, on peut dire, par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on peut dire que jusque-là, les femmes hystériques ont souvent une sorte d'adoration, comme ça, pour une femme qui leur sert de repère, et que dans ce cas-là, bon, je pense qu'on vous en a parlé, on vous a raconté le cas d'Aura. Oui, donc vous voyez, donc il y avait une sorte de fascination comme ça qui redoublait l'identification au père pour la passion russe. Bon. Donc, avec une détermination très grande, elle va jusqu'au bout de cette logique. Hein. C'est-à-dire, donc, elle est fascinée par cette femme, elle aide le mari, elle s'identifie complètement à lui, elle vit par procuration. En fait, elle vit cette relation par procuration, quoi. C'est comme si elle y était. Bon. Et donc elle n'est pas seule, puisqu'elle est prise dans ça, et au fond, elle peut même passer ses enfants, etc. Et donc elle est dans une identification phallique, on va dire, justement. Et puis à un moment donné, il y a un moment où quelque chose aboutit, où il y a un point de non-retour, c'est-à-dire où au fond, il n'y a plus rien à combiner, quoi. Il n'y a plus rien à imaginer, c'est fait. Et à ce moment-là, il surgit une autre dimension qu'elle avait elle-même jamais entrevue chez elle. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'au fond, jamais chez elle, elle avait même eu l'idée qu'elle aurait pu commettre un acte comme ça. Oui. Et donc, c'est cette idée qui la traverse, eh bien, c'est la part non phallique de la jouissance féminine qu'elle saisit à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas là déjà avant. Mais à ce moment-là, au fond, elle en saisit une occurrence. Quelque chose qui est discordant et qui est excessif, hein, qui est disproportionné. Alors, je vais vous donner un exemple moins catastrophique. Enfin, encore que celui-là n'était pas catastrophique, ça c'est quelque chose de... Ça peut arriver à tout le monde, vous voyez, ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple littéraire. un exemple de dédoublement de la jouissance, justement, chez une femme, enfin une femme, disons, une héroïne. Il s'agit d'un roman brésilien qui s'appelle, qui est assez connu, qui s'appelle Dona Flor et ses deux maris, qui a donné lieu à un film d'ailleurs. Donc peut-être vous avez vu ce film ou lu ce roman, c'est un roman de Jorge Amado. C'était un vieux film, assez beau, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait. Film brésilien aussi. Et donc c'est dans ce roman, donc l'histoire est la suivante, l'héroïne perd son mari, Vadino, donc, un mauvais garçon qu'elle aime, peu après leur mariage. Hein, donc c'est-à-dire elle se marie avec un mauvais garçon qu'elle adore et elle le perd. Il s'appelle Vadino. Et à la suite de ça, donc, sa famille la fait remarier et donc elle fait un mariage de raison, un deuxième mariage de raison, où elle trouve un bonheur tranquille, sans passion, mais où elle a des choses, elle possède des biens, etc. Une phrase qu'elle dit, par exemple, c'est « La même chose tous les jours finit par lasser, même quand tout est pour le mieux ». Et alors, donc dans le roman, ce qui se passe, c'est que Vadino revient sous la forme d'un spectre, une sorte d'incube. Vous savez ce que c'est que les incubes? Les incubes, c'était des vampires féminins, si vous voulez. C'est-à-dire les incubes, ce sont incubes, c'est en latin incubare, ça veut dire cauchemar. Au fond, les incubes, c'est des hommes qui viennent la nuit pour jouir des femmes. Et les succubes, c'est des femmes qui viennent la nuit pour jouir des hommes. Dans le film Dracula, je ne sais pas si vous avez vu le film de Coppola, non ? Le film de Coppola, Dracula, on voit ça. Très bien, c'est très bien fait. Et donc le Vadino en question revient sous la forme d'un spectre avec lequel elle a une jouissance incommensurable à celle de ses relations conjugales avec son mari vivant. Et donc à partir de là, elle va avoir une double vie, si vous voulez. Toutes les nuits, donc, elle fait l'amour avec ce spectre. Cet amant mort fantomatique qui est la métaphore d'une absence. Et au fond, on peut dire que cette figure, c'est le partenaire de Dona Flor, l'héroïne, pour l'autre jouissance. Que là, il y a aussi quelque chose de structural, puisque bon, j'ai parlé de duplicité de la jouissance féminine. Duplicité, c'est un terme de Lacan, et la duplicité, dans le langage courant, ça veut dire la tromperie. Mais ça veut dire le dédoublement. Donc Lacan, il le dit comme dédoublement, mais il y a peut-être ça en arrière-fond aussi. Et donc ça, c'est une théorie qu'il a faite bien avant, c'est une théorie qu'on trouve dans un texte, enfin pas la théorie de Dona Flor, ça c'est un exemple que moi je vous donne, mais c'est une théorie qu'il a faite dans les années 50, dans un texte de 1958 sur la sexualité féminine, donc bien avant qu'il invente la théorie du patou qui date des années 70, mais qui est une anticipation. Et donc là, donc il dit, au fond, que pour une femme, il y a une sorte de duplicité de la jouissance féminine, c'est-à-dire il dit les hommes sont infidèles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une femme manquante et une femme phallique, et donc il y a toujours deux femmes, au fond. Et il dit, pour les femmes, on les croit monogames, mais en fait, elles sont pas si monogames que ça, parce que elles trompent leur mari avec quelque chose qu'on ne voit pas, hein, qui est en arrière, si vous voulez, qui est justement ce dont il fera cette autre jouissance, et qui là est incarné par ce personnage dans ce roman. C'est-à-dire qu'au fond, lui dit qu'au fond, il y a un dédoublement à cette époque-là, donc c'est plus concret dans les années 50, il dit il y a un dédoublement, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a dans le partenaire d'une femme, il y a au fond ce qui est son partenaire phallique, c'est-à-dire le pénis du partenaire, et ce pourquoi elle en jouit. Et ce pourquoi elle en jouit, eh bien, c'est quelque chose qui est en arrière, qu'on ne voit pas, et qui est lié, il dit, à une figure comme ça de l'incube. Cette figure de l'incube, c'est ce qu'il reprendra après sous la forme de cette relation avec un autre vide, quoi, un autre absent, vous voyez, quelque chose d'un peu mystique. Eh bien, là, dans ce roman, au fond, c'est incarné, c'est concrétisé par le spectre qui permet de jouir du mari aussi, vous voyez. C'est pour ça qu'il parle d'une duplicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'infidélité, puisqu'il est mort, il n'est pas là, etc. Mais c'est quelque chose comme un fantasme, si vous voulez, qui permet, Lacan parle même d'un report de la jouissance. C'est-à-dire qu'au fond, la duplicité féminine, c'est qu'une femme qui jouit, dans cette théorie, c'est qu'une femme qui jouit du pénis de son partenaire, eh bien, elle jouit de ce pénis parce que, il y a un incube derrière dont elle jouit en fait. Voyez, et il y a un recouvrement des deux, de ces deux choses. C'est-à-dire que la jouissance phallique elle-même ne se comprend pas sans cette autre jouissance. C'est-à-dire cette autre jouissance qui est en plus, en même temps, elle est le fond aussi de la jouissance phallique, vous voyez. Donc il y a une relation complexe entre les deux. Alors par exemple, Vadino, dans ce roman, il énonce la position de Donna Flore. Il lui dit « Aussi, puisque nous sommes tous les deux tes maris avec des droits égaux, qui trompe qui ? Toi seule, ma Flore, nous trompe tous les deux car tu ne t'abuses pas toi-même. » Voilà. Donc c'est-à-dire qu'elle, elle sait, au fond, ce qu'il en est, mais pas eux. Et au fond, donc, c'est une duplicité sans division, vous voyez ? C'est-à-dire que ça ne cause pas une division au sens d'une contradiction chez la femme. C'est quelque chose qui, au fond, lui permet de jouir de son partenaire, même par cet arrière-fond. C'est ça l'idée. Donc oui, ça c'est un exemple plus concret. Alors je ne suis pas sûre que tous ces exemples se recouvrent, hein, mais on pourrait dire peut-être que dans le cas de la frigidité, si on prend la théorie de Lacan 70, quand il dit la frigidité, au fond, ça pourrait être simplement qu'il n'y a que l'autre jouissance qui l'intéresse, et qu'elle n'en dit rien parce qu'elle ne sait pas quoi, comment en parler, hein. Elle le sait, elle l'éprouve, mais elle ne peut pas en parler. Eh bien, et les mystiques seraient intéressants parce qu'ils arrivent à en parler, justement. Ils arrivent à en parler, mais ils arrivent à en parler sous une forme, justement, qui n'est pas mélangée au sexe, au sens trivial du terme. Hein. Puis parce que c'est des écrivains aussi, quand même, enfin, ce dont on... Mais donc, dans le cas de la frigidité, au fond, on pourrait se dire que peut-être à ce moment-là, justement, ce système vadino-le mari ne fonctionne pas, vous voyez. C'est-à-dire que cette autre jouissance ne peut pas animer la jouissance phallique. Quoi. Il y a quelque chose qui... Puis il y a des cas aussi où on pourrait dire qu'il n'y a que jouissance phallique et il n'y a pas... Lacan dit qu'il y a des... que c'est justement la jouissance pas toute, c'est quelque chose qui est contingent, qu'on ne saisit que dans certains moments, hein, et que même la femme elle-même ne la saisit pas forcément à tout moment. Pour lui, ça ne recouvre pas du tout, je le dis tout de suite, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire tout de suite, ça ne recouvre pas la division clitoris-vagin. Chez Freud, oui, chez Freud, il y a l'idée que la fille, quand elle se détourne de la mère, elle doit aussi... Pour Freud, la fille est une transsexuelle. Moi, je dis toujours ça. Je dis pour Freud, les filles sont des transsexuelles, parce qu'elles doivent changer d'objet d'amour et elles doivent changer de sexe. Il dit ça comme ça. Il parle d'un changement de sexe. Elles doivent changer de sexe, elles doivent passer d'être un garçon à être une fille, à un moment donné. Et donc, pour lui, c'est lié effectivement à un passage de la jouissance clitoridienne à la jouissance vaginale, avec un certain renoncement à la jouissance clitoridienne, renoncement forcé, en quelque sorte, hein, qui en général ne marche pas bien, enfin, bon, tout ça est très obscur chez lui. Donc, chez Lacan, lui, il écarte complètement ces questions anatomiques, ça l'intéresse pas du tout, enfin, ça, c'est peut-être, je sais pas si ça l'intéresse pas du tout, mais en tout cas, il considère que c'est pas sur ce plan-là que la psychanalyse peut apporter quelque chose, vous voyez. Et c'est vrai que la psychanalyse, elle vous parle des symptômes, elle vous parle des fantasmes, mais elle en parle à un autre niveau. Bon, et d'ailleurs, il faut bien dire qu'au niveau... Oui, bien sûr, mais si vous voulez, bon... oui, bah, bien sûr, bah, alors on peut parler du corps et de ses fantasmes, mais c'est pris dans les fantasmes, vous voyez. C'est les fantasmes sur le corps. Voilà. Parce que bon, la jouissance vaginale, on n'a jamais biologiquement compris ce que c'était, il faut quand même bien dire. Donc... Oui, mais si vous voulez, il n'y a pas de. On peut localiser un orgasme pénien ou clitoridien. On peut localiser ça. Mais la jouissance vaginale, si mes connaissances sont exactes, ce qui n'est pas sûr, mais je crois que les biologistes ne savent pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une localisation fantasmatique. Voilà. C'est pas, ça ne se passe pas dans le vagin, quoi, en quelque sorte. Ça se passe. On ne sait pas. Je veux dire, c'est. C'est un peu bizarre, quoi. Il n'y a pas de... Comment ? Quoi, biologiquement ? Ah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, il y a tous les intersexuels. Voilà, donc, Bien sûr. Dès le départ, ça n'existe pas. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était mythique. Non, non, moi j'ai dit ça n'existe que nommé. J'ai dit c'est un temps 1 qui n'existe que pour le temps 2 parce qu'il est nommé. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le médecin, si vous voulez, ou il y a quelqu'un qui dit c'est un garçon, une fille, qui peut se tromper d'ailleurs. Il y a des cas où on se trompe. Donc, il y a des cas où on se trompe parce qu'on ne peut même pas décider. Il y a des cas incertains et puis il y a des cas où on se trompe parce qu'ils sont incertains et qu'on ne le voit pas et qu'on croit que, etc. Et donc d'ailleurs, toute la chirurgie sur les transsexuels s'est développée à partir de la chirurgie sur les intersexuels au départ, historiquement. Oui, par exemple, oui, ce sont des cas d'intersexuels. Oui, c'est très vieux, mais c'est pas si vieux que ça. C'est très vieux qu'ils aient été opprimés, mais c'est pas si vieux que ça qu'on soit intervenu scientifiquement dessus, etc. Oui, mais parce que à la naissance, on va dire c'est un garçon, une fille, on va l'élever comme tel. Donc à partir de là, bon, ben effectivement, s'il y a la puberté, il lui pousse. Il y a un roman très beau de Eugénie Dès, je ne sais pas si vous avez lu ça, il faut lire ce roman qui s'appelle. Comment il s'appelle déjà ? C'est l'auteur qui a fait Virgin Suicide aussi. L'auteur s'appelle Eugénie Dès et le roman s'appelle. Enfin, c'est un roman qui raconte, qui est traduit en français et qui raconte exactement une fille qui a été élevée comme fille et qui, à la puberté, se développe en garçon et au fond. Hein, Middlesex, voilà, c'est Middlesex. Voilà. Et donc, qui raconte l'opération, tout ça, comment ça se passait, etc. Et c'est basé sur des documents vrais, ça se passait effectivement comme ça. Des patients opérés, et c'est assez atroce, quoi. C'est assez atroce de voir comment les médecins décidaient, finalement. Avec des histoires dingues, des gens qui ont changé plusieurs fois, enfin, des trucs horribles. Bon, donc, l'anatomie, de toute façon, n'existe que parce qu'on la décide, si vous voulez, d'une certaine façon. Voilà. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Pour le deuxième temps. C'est pour ça que ce deuxième temps est très important. Et puis le troisième temps, c'est le temps du sujet, le temps des choix. Et au fond, là, ce dont je vous parle maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que quand on vous dit que c'est pas anatomique, c'est à deux sens. C'est premièrement, effectivement, la jouissance féminine, c'est pas localisé dans le corps, vagin ou clitoris, et d'autre part, c'est pas localisé soit chez les hommes, soit chez les femmes. Il peut y avoir des hommes qui sont des femmes et des femmes qui sont des hommes. Puisque Lacan prend l'exemple de Saint Jean, par exemple, qui est un homme, en disant que c'est une jouissance féminine. Donc, c'est pas... Bon, alors évidemment, on a toujours tendance, bien sûr, couramment, à être impressionné par les apparences. Et par les discours. Non, mais je veux dire, même comme analyste, c'est évident que...
Justement, si je puis me permettre, la manière dont vous présentez, moi je connais absolument pas, je suis vraiment béotique, la manière dont vous présentez Lacan, j'avais le sentiment que c'était beaucoup plus normé chez vous. Cette histoire, il y avait des hommes, il y avait des femmes, et on n'en sortait pas, et finalement...
Parce que pour Freud, il dit l'anatomie, c'est le destin. Donc, si vous voulez, lui, il articule vraiment ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, il articule le fait d'être homme ou femme à un développement articulé à l'anatomie, la sienne et celle de l'autre. Voilà. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Ben, c'est l'anatomie, c'est la vue de l'anatomie. Ben, oui, c'est la vue du sexe d'une femme. C'est la vue du sexe de la mère, pour lui, enfin, ou du sexe d'un substitut. Mais en tout cas... C'est la vue du sexe féminin qui est vraiment pour lui le moment crucial sur lequel plein de choses se décident, y compris la névrose, la perversion, plein de conséquences. Donc chez Lacan, lui, il a cherché à se décoller de ça, c'est sûr. Il a cherché à se décoller de ça. Il dit par exemple, l'essence de la femme n'est pas la castration. Lacan dit des phrases comme ça. Et effectivement, pour lui, il n'y a pas d'essence de la femme, puisqu'il considère qu'elle n'existe pas comme... Alors quand il dit la femme n'existe pas, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas comme universelle, justement. Il n'y a pas d'un universel qui représente la femme, comme on pourrait dire qu'il y a un universel de l'homme articulé à ce mythe de totem et tabou. Il n'y a pas un mythe féminin équivalent. Et au fond, ce qu'on peut saisir, c'est des histoires singulières de jouissance où on s'aperçoit de manière singulière, au courant d'une vie ou d'une histoire, qu'il y a des moments où elles sont traversées par autre chose que la jouissance phallique. Quoi. C'est ce à quoi on a accès, finalement. Voilà.
fois, on parle de femme, quand on parle de femme, on ne parle pas d'hystérisme.
C'est pas la même chose. Non. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, on a tendance à confondre hystérique et femme, et névrose obsessionnelle et homme, parce que ces deux névroses, effectivement, il y a une affinité élective, si je puis dire, entre les femmes et l'hystérie, et les hommes et la névrose obsessionnelle. Mais là, moi, je vous parlais de femme et d'homme, je ne vous parlais pas d'hystérique. Alors, l'hystérique, on peut la caractériser par rapport à... Pour Lacan, l'hystérique, c'est justement quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir avoir une jouissance toute phallique, par exemple. À ne pas supporter... Bon, de toute façon, la jouissance est difficile à supporter pour tous les sujets, mais disons, l'hystérique, pour lui, c'est quelqu'un qui vise à l'universalisation, justement. Voilà. Qui vise, au fond, à être... à passer par un homme auquel elle s'identifiera pour être toute phallique. Ça n'empêche pas d'être une femme par ailleurs. Hein. Mais bon, disons, ça sera sa stratégie. Pourquoi ?
Non, parce que là, quand on parlait des hommes et des femmes, par exemple, je me dis finalement, la question, ça serait peut-être que ces hommes qu'on prend pour des hommes qui seraient des femmes sont peut-être des hystériques.
Oui, bah peut-être aussi, oui, pourquoi pas. Mais même s'ils sont des hystériques, si vous voulez, c'est pas sur le même plan que ça se situe. L'hystérie, c'est une forme de symptôme. Bon, d'abord, l'hystérie, c'est quelque chose de plastique qui a beaucoup évolué cliniquement au cours des temps, depuis toujours, et particulièrement depuis l'invention de la psychanalyse. On n'a plus les hystériques de Charcot. Hein. Bon, enfin, en tout cas, pas sous nos latitudes habituellement, quoi. Bon. Hein? Ça bouge. Non, si vous voulez, il faut définir la structure et la manière dont elle s'incarne finalement socialement dans des endroits différents, des périodes différentes. Par exemple, les anthropologues, ils comparent les trans à l'hystérie ou des choses comme ça. Donc, tout ça est très compliqué. Hein, bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que la manifestation de l'hystérie n'est pas forcément la même au cours du temps. Bon. Alors, comment c'est apparu l'hystérie chez Freud ? Pour Freud, l'hystérique, c'est quelqu'un qui a du mal à supporter le sexe phallique, ça c'est clair. Comment il décide que Dora est hystérique, c'est simple, il a des préjugés. Bon, il a des préjugés, on a dû vous expliquer tout ça, il considère que Dora est hystérique, parce que quand Monsieur K la presse contre lui quand elle a 14 ans, et qu'elle sent son sexe érigé, elle le repousse. Et elle ne supporte pas ça, et donc lui il considère qu'une fille normale devrait être excitée à ce moment-là. Voilà. Donc, oui, non, Freud, il est comme ça. C'est-à-dire, en fait, il n'est pas pudibon. Il considère que finalement, bon, bah voilà. Donc, ça aurait été normal qu'elle soit excitée. Alors, mais surtout, ce qu'il considère comme anormal, c'est qu'elle est refoulée et qu'elle ait fait des symptômes. C'est pas qu'elle est repoussée comme ça. C'est plutôt le fait qu'elle ne puisse pas assumer ça autrement qu'en fabriquant une laryngite, je ne sais quoi d'autre, et plein de problèmes avec des déplacements à la gorge et compagnie. Voilà, donc c'est ça qu'il considère comme hystérique. Mais en tout cas, l'hystérie, c'est lié à un problème avec le phallus chez la femme. Voilà. Et bon, alors après, donc dans le cas d'Ora lui-même, on s'aperçoit que ce problème est lié au fait que Freud lui-même s'en est aperçu, qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'être une femme. Elle-même ne sait pas s'accepter comme femme, d'où sa fixation amoureuse sur Madame K, qui explique toute l'intrigue, puisque, au fond, on ne comprend pas pourquoi cette Madame K, qui n'est pas gentille avec elle, elle l'a protégée pendant très longtemps, elle a protégé l'amour de son père avec elle, et puis, bon, à la fin, elle craque, elle envoie promener tout le monde, enfin, on vous a déjà raconté l'histoire, donc je ne vais pas recommencer, parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, on s'aperçoit qu'il y a deux choses importantes dans cette observation. C'est ce refus du sexe masculin, mais que ce refus du sexe masculin n'est motivé finalement que parce qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire être une femme, au sens inconscient du terme. Bien sûr, elle sait se comporter en société. Bon. Et que donc, elle a besoin d'une autre femme en laquelle sa question va s'incarner. Alors ça, c'est Lacan qui le traduit comme ça, c'est-à-dire qu'il dit qu'au fond, l'hystérique, c'est celle qui se pose, l'hystérique garçon ou fille, c'est celui ou celle qui se pose la question de la féminité et qui, pour laquelle la féminité devient une question obsédante, enfin une question prégnante. Voilà. ça peut être chez les garçons et chez les filles, mais c'est vrai que les filles sont particulièrement prédisposées à ça, parce qu'elles sont, prédisposées à jouer le rôle de femme dans la société, alors qu'elles ne savent pas ce que c'est, inconsciemment. D'où la fréquence de l'hystérie chez les femmes. Mais l'hystérie, c'est une question, vous voyez, une question sur la femme. Et au fond, on peut être une femme sans se poser la question. Vous voyez, on peut être une femme sans se poser la question, on n'a pas l'impression que Médée se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une femme. Et on peut se poser la question et ne pas y arriver à être une femme. Oui. Voilà. Enfin, bon, ça peut être. Et chez les garçons, c'est aussi la question de la féminité qui est prégnante. C'est pas la question de la masculinité. Chez les garçons hystériques. Voilà. Dans la névrose obsessionnelle, au fond, pourquoi c'est plus chez les garçons la névrose obsessionnelle ? Pardon. Oui, bien sûr. Donc, en théorie, oui. Je veux dire, théoriquement. Non, mais là, je parle de questions névrotiques, c'est-à-dire je parle de questions qui s'incarnent dans des symptômes. C'est-à-dire, Dora, elle ne dit pas qu'est-ce que c'est qu'une femme. Dora, elle arrive en disant j'ai mal à la gorge, et bon, après, on s'aperçoit que ça représente une scène de fellation, je ne sais pas quoi. Bon. Donc, si vous voulez, ce sont des questions inconscientes, c'est-à-dire c'est des questions qu'on déchiffre dans les symptômes, dans les rêves, dans les symptômes, dans les formations de l'inconscient, dans l'analyse. Ce n'est pas des questions explicites. Mais bon, c'est parce que madame me demandait pourquoi il y avait plus d'hystérique chez les femmes. Et alors pourquoi les garçons deviennent plus névrosés obsessionnels ? C'est parce que finalement, pourquoi il y a une affinité ? C'est que les garçons ont une jouissance phallique donc qui est arrêtée, enfin qui n'est pas arrêtée, mais qui est marquée par la castration à un moment donné. Le névrosé obsessionnel chez Freud, c'est celui qui a eu trop, au contraire, alors l'hystérique, c'est celle qui n'a pas supporté le sexe, le garçon obsessionnel, c'est celui qui a trop joui quand il était petit, quoi, disons, voilà. Donc il a, précoce, voilà, donc pour Freud, c'est comme ça, et donc, ça, après, avec le complexe de castration, ça engendre des tas de symptômes, obsessionnel, bon, il ne faut pas y toucher, il faut y toucher, il faut y penser, il ne faut pas y penser, enfin bon, bref, après, ça se généralise dans plein de choses. Mais disons, ça serait trop de jouissance précoce. Voilà. C'est pas trop de jouissance précoce, c'est trop d'acceptation de la jouissance, si vous voulez, voilà. C'est comme ça que Freud le définit. Alors que, bon, chez la fille, effectivement, il y a une difficulté par rapport à la jouissance phallique qui est introduite chez Freud par cette histoire de passage du clitoris au vagin et du fait que la mère est considérée, la mère, à partir du moment où la fille s'aperçoit que la mère n'a pas le pénis, elle se met à la détester, c'est-à-dire il y a la haine de la mère, c'est-à-dire non seulement elle se détourne d'elle, mais elle la hait, donc il y a une haine qui est marquée là, haine qui souvent se reporte sur le sexe féminin et qui explique pourquoi souvent les femmes ne s'aiment pas elles-mêmes, ont du mal à s'aimer elles-mêmes et ne s'aiment pas entre elles. Voilà. On ne sait pas que les garçons s'aiment entre eux, mais disons c'est plus la rivalité classique chez les filles, c'est plus opaque et souvent c'est plus il y a une difficulté à s'accepter. Il y a souvent une difficulté à s'accepter soi-même comme femme, en effet, derrière tout ça. Quoi. Voilà. Et donc un refus et la mère passe pour l'interdictrice de la masturbation, même si elle ne l'a pas fait, peu importe. Elle est portée responsable. Quoi. Voilà, je ne sais pas, vous êtes peut-être des. Tout ça n'est pas très gai. C'est pas très réjouissant, disons, voilà. Mais
la proposition, la nécessité de passer par une autre femme. Oui.
Mais ça, c'est l'hystérie. C'est la définition même de l'hystérie. Voilà, mais oui, ça c'est le principe de. C'est le principe même de l'hystérie, c'est-à-dire c'est Dora, c'est-à-dire que pour devenir une femme, il faut avoir passé par une autre femme dans lequel on va s'incarner cette question, va se travailler cette question, et puis à un moment donné, le sujet peut ou pas arriver à s'accepter lui-même comme féminin. Bon, mais ceci dit, il y a aussi le problème des identifications, c'est sûr que on emprunte des traits à droite et à gauche. Mais enfin bon, l'intérêt de la théorie de Lacan, c'est justement, me semble-t-il, de ne pas passer par les identifications au sens usuel du terme. C'est-à-dire, par exemple, toute cette problématique, si vous voulez, par exemple, toute cette problématique de l'adoption homosexuelle, les gens, si les gens ont tellement de préjugés par rapport à ça, c'est parce qu'ils pensent qu'au fond, on devient fille, ils pensent comme ça très simplement, qu'on a besoin de modèles, c'est ça que j'ai entendu comme argument souvent, on a besoin de modèles des deux sexes, etc. Et au fond, on ne peut pas être un homme si on est élevé par deux femmes, et on ne peut pas être une femme si on est élevé par deux hommes. Bon, alors ça, c'est très contraire à la psychanalyse, si vous voulez. Bon, déjà, c'est contraire à la psychanalyse freudienne, parce que bon, la féminité chez Freud passe par le père de manière très importante, bon, donc déjà ça passe pas forcément par la mère uniquement, mais en plus c'est pas du tout lacanien dans la mesure où ce que je vous ai donné comme élément, même si c'est très lacunaire et très schématique, je m'en excuse, sur la féminité et la masculinité, vous voyez bien que ça passe pas par l'identification aux parents, vous voyez. Bien sûr, ces identifications, ça existe. Quand je vais donner l'exemple de Violette Le Duc, elle est face à un discours qui s'incarne dans un regard. C'est un fantasme, une scène fantasmatique. Et là, elle est sommée de choisir. Vous voyez, c'est un peu le choix de Violette Le Duc. Bon. Choisis, soit je suis le bourreau, soit je suis la victime. En fait, c'est un peu ça. Soit je suis l'homme, soit je suis la femme. C'est un peu comme ça que ça se pose, de manière très schématique. Je ne dis pas que tout chez elle se résume à ça. Je vous ai pris cet exemple parce que, en trois lignes, elle dit un truc vraiment important sur son enfance, mais là, on voit bien, si vous voulez, que ça passe pas par l'identification à des traits de l'autre, si vous voulez, au sens où on imaginerait que la fille s'identifie à la féminité de sa mère, au sens de sa coquetterie ou des choses comme ça, vous voyez. C'est pas comme ça du tout que ça fonctionne, quoi. Et donc... Oui, oui, mais c'est pour ça que moi je dis, il y a dans la psychanalyse toute une matière subversive par rapport à ces questions que les gens ignorent. Bon, effectivement, c'est vrai que Lacan n'est pas facile d'accès, etc. Mais c'est vrai que si on pousse, et puis bon, lui-même n'a pas tenu ses positions, bon, il n'a pas dit, hein, mais c'est vrai que si on saisit ce qu'il y a dans la théorie, il n'y a absolument aucune raison d'en tirer des constats réactionnaires comme ceux qu'on a entendus. C'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire que ça, ce sont des positions idéologiques, mais qui ne sont pas en elles-mêmes justifiées par la théorie psychanalytique. Bon, c'est vrai que ça compte, hein, on ne peut pas non plus. Oui, mais enfin bon. Non, ça quand même, moi je pense que ça compte. Il ne faut pas sous-estimer le poids des discours, des désirs qui attendent un enfant, etc., si vous voulez, ni de la cellule familiale. C'est sûr que c'est quand même... On voit bien que ça compte énormément et ça compte plus que le reste. C'est-à-dire, par rapport aux déterminations sur un enfant, ça compte énormément. Bon. Mais simplement, si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que fait un enfant avec ses parents, ça n'est pas des identifications aussi simples que ça. C'est-à-dire que... bon, moi je donne comme exemple un autre roman qui s'appelle Les Corrections de Jonathan Franzen, un roman américain qui a été traduit en français qui s'appelle Les Corrections de Jonathan Franzen, qui raconte la vie d'une famille du Middle West contemporaine. Donc il y a le père, la mère, trois enfants, et au fond c'est assez intéressant, ça s'appelle Les Corrections, et ça montre comment la trajectoire de chaque enfant est à la fois déterminée par ses parents, mais en même temps corrigée sans arrêt. C'est-à-dire que finalement, l'enfant reçoit, bon, les parents attendent quelque chose, l'éduquent d'une certaine façon, le poussent vers quelque chose, l'enfant reçoit ça, et lui-même, il va vouloir corriger cette trajectoire. Mais quand il veut corriger la trajectoire, il ne la corrigera pas comme il veut non plus. Donc il va tomber sur encore autre chose, vous voyez. Et comment, au fond, c'est des corrections comme ça. Et au fond, ça montre que, et ces corrections, c'est ce que Lacan appelle le symptôme, finalement. C'est-à-dire, c'est que finalement, bien sûr, on a des traits identificatoires, on nous a mis des tas de choses sur le dos, etc., et c'est très lourd, mais on passe son temps à choisir autre chose. Et en choisissant autre chose, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut non plus, mais on arrive à des résultats qui sont des résultats compliqués, où il y a une part amenée par le sujet, c'est pas simplement des trucs identifiés, des identifications. Pardon.
Oui, moi j'ai bien compris tout ça, donc on a catégorisé l'homme, la femme, que c'est nommé, mais qu'est-ce que vous faites de la maternité? Enfin, le fait de pouvoir, comme quelque chose d'assez fort, pour redéfinir l'homme de la femme.
C'est-à-dire, je ne comprends pas.
Enfin, on a dit que, en compte, il pourrait y avoir une rangée différente de l'homme à la femme,
La maternité biologique, vous voulez dire? Bah, ça fait partie de l'anatomie.
Oui, mais justement, c'est un critère fort pour...
À la naissance? Oui. Bah non, à la naissance, on voit les organes...
Hommes ou femmes?
Bah non, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'anatomie, c'est-à-dire, ça fait partie de l'anatomie. Mais non, c'est pas un critère fort, parce que vous pouvez très bien avoir des cas d'intersexuels où vous avez des ébauches d'organes des deux sexes. Donc ça n'est pas un critère possible à la naissance totale. Vous avez même la génétique ne suffit pas à trancher, puisqu'il y a des gens qui ont plusieurs chromosomes féminins, enfin bon, donc...
Excusez-moi, je sais pas, ça me fait penser à... Il me semble que Lacan avait dit qu'en fait, une femme est vraiment femme, elle devient vraiment femme quand elle enfante.
Lacan? Ah non. Non, c'est pas du tout lacanien. Non, ça ça peut être des théories genre Hélène Deutsch, vous voyez, des choses comme ça. Il y a des analystes. Il y a eu une tendance dans la psychanalyse à vouloir, bon, effectivement, étant donné qu'on savait pas ce que c'était que les femmes, que Freud disait que c'était une énigme, il y a eu évidemment la réponse facile qui était de dire que les femmes finalement se réalisaient dans la maternité. Bon, et il y a même des femmes qui le pensent après tout. Bon. Et il y a des femmes pour lesquelles peut-être c'est vrai, hein, pourquoi pas, mais disons, en tout cas, c'est une tendance qui existe dans la psychanalyse, mais qui n'est pas une tendance freudienne, Freud n'a jamais dit ça, et qui n'est pas non plus, alors certainement pas une tendance lacanienne, au contraire, Lacan a toujours dit qu'il fallait bien distinguer la femme et la mère. Bon. Par contre, il y a eu un certain nombre d'analystes freudiennes, enfin donc comme Hélène Deutsch, par exemple, qui ont considéré que... En effet, la vraie réalisation de la féminité, c'était la maternité. Que c'était vraiment là que... Et donc, il y a évidemment des théories contemporaines qui appuient ça. Mais bon, ça, c'est pas vrai. C'est une position idéologique, si vous voulez. Pas de raison de penser ça.
Ça va dans le sens un peu de l'envie du pénis, c'est bien, ça.
Non, mais parce que l'envie du pénis, si vous voulez, peut avoir plusieurs développements chez Freud. L'envie du pénis freudien, chez Freud, ça peut en effet conduire à la voie normative qui est de désirer un enfant du père, enfant qui est le substitut du pénis, bon, et après, en effet, ça peut conduire à désirer un enfant d'un homme. Bon. Mais ça, c'est une voie, comme Freud le dit, c'est une voie très compliquée, très longue, très... Il y a beaucoup de substitutions, si vous voulez, sur le chemin féminin, qu'il n'y a pas chez pour les hommes. Les hommes, ils ne changent pas d'objet, ils gardent la mère, bon, et ils ne changent pas de sexe non plus. C'est beaucoup plus simple, si vous voulez. Pour les femmes, ça fait beaucoup d'étapes. Donc, ce qui fait qu'en fait, même chez lui, vous avez il dit qu'il y a trois directions. À partir du moment où la femme s'aperçoit que ou la petite fille s'aperçoit que la mère n'a pas de pénis, il dit qu'il y a trois directions possibles. Elle peut, après avoir constaté qu'elle-même n'a pas de pénis, revenir là-dessus dans un déni secondaire et considérer qu'elle l'a quand même. Peut-être le cas de la petite fille dont je vous ai parlé, c'est une histoire de ce genre. Et donc considérer qu'elle est un garçon, et puis voilà, et mener sa vie comme ça. Bon, ça l'empêchera peut-être pas d'avoir des enfants d'ailleurs, hein, mais elle aura peut-être des enfants pensant qu'elle est un garçon. Donc il y a ça. Il y a la voie normative donc dont je vous ai parlé, on passe de la mère au père et du père à l'homme, et effectivement on cherche le pénis sous la forme de l'enfant, et donc on demande un enfant à un homme, enfin on veut un enfant d'un homme, voilà. Donc ça c'est une possibilité, mais il y a aussi les possibilités où, quand la fille se tourne vers le père, elle s'identifie au père, et elle peut devenir homosexuelle, bon, donc elle peut faire un choix d'objet féminin, et ne pas forcément vouloir d'enfant. Elle peut aussi vouloir un enfant en étant homosexuelle, mais c'est pas forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'est pas sûr que ça soit un substitut du pénis du père. Oui. Il y a les choses qu'on fait dans la vie, et puis qu'est-ce qu'elles signifient pour un sujet donné dans son histoire, dans son développement. Donc c'est pas forcément toujours la même chose. Et il est un fait que toutes les filles, toutes les femmes ne désirent pas d'enfants. Elles peuvent très bien désirer le pénis sous une autre forme. Elles peuvent vouloir écrire des bouquins et pas d'enfants. Elles peuvent aussi vouloir des bouquins et des enfants, d'ailleurs. Il y a des tas de variantes possibles, des tas de substitutions possibles. Et du fait que, justement, il y a cette complexité de plusieurs substitutions, il y a d'autant plus de variétés, finalement. Donc, c'est pas systématique que les femmes veuillent des enfants. Il y a aussi des femmes qui veulent des enfants sans hommes, de plus en plus. Donc, ils veulent si on était dans les termes freudiens, qui voudraient le pénis sans le père. Je sais pas, enfin, c'est sûr que de toute façon, avec les développements, avec les possibilités de la science, etc., les choses vont bouger à ce niveau-là. Les choses bougeront de plus en plus. Il est bien évident que déjà, quand le jour où les femmes seront plus obligées de porter les enfants elles-mêmes, ça va faire un changement absolument considérable. On n'aura même jamais vu un changement comme ça. Ça aura des répercussions sociales et politiques considérables. Et psychiques, forcément.
J'ai pas compris.
Non, j'ai dit le jour où les...
Je comprends, mais est-ce que ça veut dire que les femmes, pour se rendre compte,
elles ne sont plus obligées? Ben non, parce que les mères porteuses, c'est des femmes qui portent les enfants, quand même.
Oui, ben là, je comprends pas.
Non, quand il y aura des utérus artificiels, à ce moment-là, si vous voulez, il y aura une possibilité pour les femmes de ne pas porter les enfants elles-mêmes. Bah, c'est une utopie, mais bon, il semble que ce soit pas une utopie impensable. Non, c'est pas fait. Il paraît que c'est envisageable. Non, mais c'est pas la même chose. Attention, la sélection génétique, c'est pas pareil que le fait de... Ah non, c'est deux choses différentes. C'est totalement différent. La sélection génétique, on peut déjà la faire. Non, mais la sélection génétique, elle existe déjà. Là, c'est une question de loi, si vous voulez. Non, non, la possibilité, si on... Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. C'est pas du tout la même chose. Pas du tout pareil. Non, la sélection génétique, elle est possible actuellement sans aucun problème. Elle est interdite par des lois. Bon, mais une personne n'empêche de les enfreindre dès maintenant. On peut très bien choisir. Mais ça, c'est pas du tout pareil. Oui. Mais pourquoi lier les deux? Pourquoi lier les deux? Mais pourquoi? Mais on peut déjà. Donc c'est... Mais pourquoi lier les deux? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ça c'est une position idéologique. Ça a l'air de dire que si les enfants sont faits dans des cocottes minutes, ça veut dire qu'on est dans la sélection génétique. C'est pas vrai. C'est pas du tout la même chose, si vous voulez. Bon, je ne dis pas qu'il faut être pour ou contre, il faut réfléchir à ces questions sagement. Bon. Dans la cocotte minute, normalement, on met un sperme et un ovule. C'est une forme de PMA. C'est une forme de PMA. Pourquoi? C'est comme si maintenant on disait que la PMA, c'est la sélection génétique. C'est une forme de PMA comme il existe déjà.
On parle aujourd'hui avec la ronde, etc. Effectivement, c'est possible de le faire. Mais je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de penser que les deux choses, à un moment donné, que les barrières vont tomber, et que ça ne nous paraîtra pas si aberrant que ça. D'intervenir sur le choix, etc. Moi, je ne m'interdis pas de penser...
Et la sélection génétique est parfaitement possible avec les enfants faits dans le ventre, c'est ça que je veux dire.
Ça ne sera pas aussi, il y aura des choses, des tentatives, si tu veux, qui paraîtront complètement, et que ça nous paraît impensable aujourd'hui, que ça paraîtra complètement accepté demain, soit parce que c'est un luxe que tout le monde peut s'offrir, soit justement un luxe que tout le monde ne pourra pas s'offrir. Dans les deux cas, ça pose le problème quand même.
La sélection par la... Oui, mais si vous voulez, moi je tiens quand même à différencier les possibilités que donne la science et ce qu'on en fait. Bon, la sélection génétique, elle est actuellement parfaitement possible et elle n'a strictement rien à voir avec le fait que ce soit les femmes qui portent les enfants. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut faire une sélection génétique sans aucun problème. Je veux dire, il suffit de prendre un extrait du placenta ou je sais pas quoi. Et on sait exactement si on a un garçon, une fille, s'il a quelques maladies ou pas, et on peut décider d'avorter. Enfin, c'est parfaitement possible actuellement. Mais c'est ça la sélection génétique. Par exemple, je ne sais plus, c'est les Chinois qui avortent les filles systématiquement, je pense. Voilà. C'est une sélection génétique.
Il y a aussi des anormalités en France. Hein,
voilà, ça c'est une sélection génétique. Donc elle est normée par la loi. Bon, voilà. Elle est normée par la loi. Par contre,
avant que l'avortement soit libre, on en il y avait une possibilité à condition effectivement.
Oui, non, mais j'insiste là-dessus. Je vais vous dire pourquoi j'insiste là-dessus.
On parle en termes d'acceptation par la sociale lorsque les choses ne sont pas normées. Hein, par,
oui, mais non, mais là, il y a quand même une différence énorme parce que si vous voulez, non.
Normatif parce qu'en normal, parce que si demain la norme se déplace, je suis désolée.
Oui, mais il y a différentes normes, je veux dire, c'est pas la même chose, voilà. Oui. Non, mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais on a tout à fait raison d'y... Non, c'est bien d'y penser. Non, mais ce que je veux dire, c'est important. Non, moi, je trouve que c'est il faut pas lier idéologiquement les deux pour la bonne raison que. Non. Oui, mais pourquoi, comme par hasard, lier la sélection génétique avec le fait que les femmes ne soient pas porteuses des enfants? C'est pas pareil. Mais si. Bien sûr que si, la sélection génétique sera toujours mauvaise, bien sûr. Mais c'est pas vrai. Voilà. C'est pas pareil. C'est pas la même chose de choisir son alimentation et de décider d'éliminer les gens. Il faut quand même pas tout mélanger, quoi. Ouais, enfin bon. Non, mais je suis d'accord. Mais enfin, il faut garder quand même des pour moi, en tout cas, il y a quand même des différences entre les choses. Et par exemple là, entre l'histoire de faire porter, enfin l'histoire que les qu'il y ait une possibilité que les femmes ne portent plus les enfants, je vous signale que ça aurait des conséquences incroyables sur la société et la politique. C'est-à-dire que tous les problèmes d'inégalité sexuelle seraient complètement modifiés. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça serait pas une... Non, mais je peux finir. Ça serait pas une obligation, évidemment, pour les femmes de ne pas porter les enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que la seule existence de cette possibilité fait modifier considérablement le droit de la filiation, le droit de la famille... et toutes ces questions-là, et même, bon, les questions d'éducation, voilà. Mais c'est pas la même chose que la sélection génétique. Je veux dire, la sélection génétique, ça veut dire on choisit de garder ou pas tel être humain selon tel critère. C'est l'eugénisme, toujours. Bon, avec des côtés plus ou moins horribles. Bon, et on est toujours à la limite, c'est pour ça qu'il faut des lois pour les encadrer, parce que c'est vraiment... Bon, là aussi, il faudrait sûrement des lois pour encadrer les histoires de cocottes minutes pour faire les bébés. Mais, et ça pose des tas de problèmes, je ne dis pas que ce soit quelque chose de simple à envisager, mais c'est beaucoup plus intéressant, si vous voulez, actuellement comme utopie, parce que ça permet d'imaginer comment on pourrait penser une société moins inégalitaire au niveau des hommes et des femmes. Ça renverrait, si vous voulez, parce qu'actuellement, c'est quand même ça qui empêche beaucoup de choses, au niveau de la loi. Au niveau des lois, oui, bien sûr, au niveau des lois. Pour moi, je trouve que c'est un gros problème, oui. Ah mais oui, bien sûr.
Parce qu'au départ, vous avez exposé que dans un livre que vous avez écrit, il y avait une partie de
l'ambiguïté. Oui, l'ambiguïté sexuelle. Non, moi, je vous ai exposé la théorie normative, voilà la théorie classique.
Comment, normalement, la question que je vous pose, c'est comment vous expliquez que, justement, chez Lacan,
Pourquoi il y a des hommes et des femmes? Mais parce qu'ils considèrent que... Mais si, non, attends, il y a des ambiguïtés sexuelles parce qu'il y a tous les cas qui n'obéissent pas à la norme. Voilà. Mais de toute façon, on est dans un cadre de dualité parce qu'effectivement, vous avez raison, lui, il considère qu'il y a deux grands modes de jouissance qui sont la jouissance toute et la jouissance pas toute. Ben moi, je me suis effectivement posé la question, c'est vrai, je reconnais. Moi, les cas d'ambiguïté... j'ai étudié d'abord des cas d'ambiguïté sexuelle psychotique dans le livre dont j'ai parlé. Après, j'ai continué mes recherches, j'ai fait d'autres choses qui ne sont pas parues encore. Mais dans les cas d'ambiguïté sexuelle que j'avais étudié dans ce livre, c'était des cas psychotiques, c'est-à-dire que c'était des gens qui n'obéissaient pas à la norme phallique. Donc, ils fabriquaient le fait d'être homme ou femme avec tout à fait d'autres choses. Des inventions très singulières. Donc là, il faudrait lire les exemples pour voir. Quoi. Mais disons, ils n'utilisaient pas ce système-là, c'est sûr. Oui. Si vous le voyez comme ça, oui. Moi, je vous ai dit, la psychose, ça ne recouvre pas forcément la folie telle qu'on... On l'imagine. La psychose, c'est pas uniquement de se prendre pour Napoléon, c'est des choses plus fines, quoi. Il y a des tas de cas de psychose qui se voient pas du tout pour un profane, je veux dire. Voyez, c'est pas, ça recouvre pas forcément des manifestations délirantes, explosives, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc c'est pas forcément des cas que vous auriez catalogués psychotiques. Moi, je les catalogue psychotiques par rapport à des critères très précis, structuraux, liés justement à ces questions de phallus et de castration. Mais c'est pas forcément... Certains, oui, ont des symptômes très graves, mais il y a des névrosés qui ont aussi des symptômes très graves. Quand vous lisez L'homme au rat de Freud, vous dites, mais il est complètement tapé. Bon, et pourtant, c'est une névrose. Donc, vous voyez. Donc, ça ne recouvre pas. Mais ceci dit, après, j'ai étudié des cas de névrose, des cas qui n'étaient pas psychotiques, d'ambiguïté sexuelle. Ça existe aussi, à mon avis. Moi, c'est mon idée, c'est que ça existe. Mon idée, c'est que... cette division, en effet, reste schématique. Bon, et qu'il y a des cas qui ne rentrent pas dans ces cases. Voilà, ça c'est sûr. Sûr et certain. Oui. De toute façon, comme dans toute théorie, il y a toujours dans toute théorie des cas qui échappent à la règle. Oui. Hein? Bah, l'ordre symbolique, c'est quoi? C'est le langage et la parole, l'ordre symbolique, si vous voulez. Voilà, c'est rien d'autre. Donc, sinon, quand même, il y a l'interdit de l'inceste, des choses comme ça qui fonctionnent. Il y a quand même des choses qui fonctionnent, qui traversent les civilisations, les époques, etc. Mais bon, c'est un problème compliqué, vous avez raison, c'est une question difficile sur laquelle moi je suis depuis longtemps. Comment ? Oui ? Mmh. Si elle existe quoi ? Dans l'acte sexuel, oui. Il y a une jouissance clitoridienne est très facile à repérer. L'autre, elle est plus compliquée à repérer. Les femmes disent qu'elles ont une jouissance vaginale, bien sûr, mais qu'est-ce qu'elles nomment comme ça ? J'ai pas dit qu'elle correspondait pas à cette autre jouissance. Peut-être que quand les femmes disent jouissance vaginale, elles veulent parler de ça. On sait pas, si vous voulez, c'est compliqué. Quand quelqu'un parle de sa jouissance, il parle de quelque chose de complètement privé. Et bon, donc, personne n'a la même expérience. Vous voyez, donc, et comme c'est des choses pour lesquelles il n'y a pas des représentations dans les formations de l'inconscient très claires, c'est pas, quand une femme dit qu'elle a une jouissance vaginale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est autre chose, effectivement. Maintenant, bon. c'est localisé autrement, c'est-à-dire que c'est pas localisé uniquement sur le clitoris, voilà, c'est ça qu'elle veut dire. Mais bon, comme on sait que biologiquement dans le vagin il se passe rien, ça veut dire que ça se passe ailleurs. Voilà. Oui, mais les biologistes disent qu'il n'y a pas de localisation anatomique. Ben oui, on décrit, mais justement, c'est du discours. C'est du discours, c'est bien ce que je dis. C'est pas la même chose, si vous voulez, que trouver... Non, mais c'est pas pareil que de trouver une modification organique réelle. Oui, ben voilà, mais ça, ça n'existe pas, et donc, voilà. Donc, à partir de là, on nage dans... On est dans un autre monde. Au fond, on sait ce que c'est le modèle de l'érection et de la détumescence, biologiquement. Donc on sait ce que c'est que... C'est ça qu'on appelle les orgasmes. En plus, ça ne correspond pas à ce que les gens appellent orgasme. Il y a des hommes qui ont des érections et qui éjaculent et qui disent qu'ils ne jouissent pas. Pourquoi le remettrait-on en cause? Hein? Non, mais c'est sûr. C'est sûr que le concept de jouissance n'est pas le concept d'orgasme. Ça, c'est clair. Voilà. Faut oublier ça. Mais ceci dit, ça veut pas dire que quand... Enfin, faut pas oublier ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous explique qu'il peut pas avoir d'orgasme, bon, c'est un symptôme. C'est un symptôme parce qu'il s'en plaint. Mais imaginez quelqu'un qui n'en parle jamais. Qui s'en fout. Ou pour lesquels ça passe même pas au... Tout ça... Nous, on a accès qu'au discours des gens. On va pas les examiner physiquement. On va pas regarder où est-ce qu'ils jouissent, si vous voulez, concrètement. Voilà, à la loupe. Non, c'est pas... Et les gens qui le font, ils trouvent pas grand chose. Il y a des gens qui font ça, ils trouvent pas grand chose. Il y a des tas d'expériences. Bon, oui, bah, évidemment, depuis le temps, scientifique. Oui, bien sûr. Bien sûr. On met des électrodes, on regarde ce qui se passe. Sur le point G. Le vagin. À faire des études comme ça. Ah oui, bien sûr. On fait des études sur les animaux. Quand on est très proche de la mouche.
Tout était basé sur... Comment? Oui, et puis tout ce qui était, par exemple, quand vous avez dit, bon, là, ne contrôlons pas l'instinct, la pulsion, etc. Là, c'était...
Ah oui.
Le rapport sexuel, c'est un rapport d'accouplement, et voilà ce qui se passe, et donc, je ne sais plus, vous avez des sécrétions, enfin, disons que la description de l'humain est complètement calquée ou confondue avec une description animale.
Bon. Il y avait eu dans l'IB cet été, il y a eu tout un truc sur le sexe. Je ne sais pas si vous avez vu un supplément. Et dedans, il y avait chaque fois quelqu'un qui faisait un article sur les articles scientifiques. Et c'était absolument tordant. Je prenais des extraits d'articles sur la sexologie dans des grandes revues internationales, quoi. Et c'était vraiment très drôle, les trucs qu'il y avait. Quoi. Hein?
En plus, je vous dis que c'était très, très de mauvais goût.
Oui, mais c'était...
Maintenant, à la mode, c'est le docu-fiction. Et donc, il y avait une actrice et un acteur donc, qui se sont prêtés au jeu.
Dans l'émission d'Arte?
Dans l'émission d'Arte. Pardon. C'était vraiment très mauvais goût.
C'est la pornographie scientifique, ça s'appelle. Voilà. Bon. Je peux... Vous avez encore des questions?
Oui. Il y a une chose que je n'avais pas compris, c'est pourquoi le fait de ne pas porter d'enfant fait une réelle révolution.
Non, le fait de n'être pas obligé de les porter, que les femmes ne sont pas obligées de les porter, parce que si vous voulez, actuellement, tout le droit de la filiation repose là-dessus. Par exemple, il y a actuellement une inégalité très forte entre les hommes et les femmes par rapport au fait de... Bon, vous savez par exemple qu'un homme, actuellement, un homme qui couche avec une femme, si la femme tombe enceinte, par accident, enfin, par accident ou pas par accident, bon, eh bien, elle peut l'obliger à reconnaître l'enfant, dans la loi française. D'accord ? Hein ? Ah oui, absolument. Eh bien, il faut vous mettre au courant, parce que, si, ça c'est récent, mais c'est certain, il faut mettre au courant vos enfants de la chose aussi. Donc si vous voulez, comment ? Alors, côté féminin, bon, et si vous voulez, ça peut paraître assez injuste, parce que maintenant, on a quand même l'avortement, la pilule du lendemain. Donc, les femmes ont un choix quand même assez grand et pas vraiment traumatisant physiquement. La pilule du lendemain, c'est quand même pas l'horreur, pour traiter les accidents, disons. Bon. Et donc, c'est quand même une injustice, parce que ça veut dire, si vous voulez, que face à l'acte sexuel, un homme peut être forcé de devenir père, sans qu'il ait absolument rien à dire sur cette question, alors qu'une femme, elle a jusqu'au bout le choix. C'est-à-dire, elle peut avorter tout de suite, plus tard. Alors, par contre, je suis pas sûre qu'elle ait le...
Si l'homme, là, dans la nouvelle loi, si l'homme déclare
Oui.
Donc, avant même la naissance de l'enfant, c'est la paternité qui est
Ah non, elle peut pas, parce qu'elle peut dire que c'est pas vrai. Oui, elle peut dire que c'est pas vrai.
C'est très compliqué, pour répondre à votre question, c'est pas vrai qu'il y a de la personne qui devrait éventuellement garder l'enfant à soi. Si elle va faire une déclaration en mairie, etc.
Oui, mais elle peut dire que c'est pas vrai.
Il y a
l'état génétique. Oui, donc on peut obliger, il peut obliger, mais il ne peut pas l'obliger à avoir l'enfant. Un homme ne peut pas obliger une femme à avoir un enfant, une femme peut obliger un homme à avoir un enfant. Voilà. Donc, ah, mais pas du tout. Rien du tout. Terminé, ça. C'est fini. Terminé. Il doit le reconnaître et payer une pension alimentaire.
Oui, ça se traduit financièrement. Et encore, à la limite, il peut encore refuser et puis nier jusqu'au bout.
Ah non, non, mais l'ADN. Ah non, non, non.
Oui, non. Même s'il est reconnu au niveau génétique, il peut refuser...
Il peut rien refuser du tout.
Il peut refuser dans les faits d'être réellement père.
Quand vous avez... quand même, il est considéré comme le père, l'enfant est son héritier, et il a des devoirs envers lui comme tout père.
Oui,
non, il est père, il est père.
Les nier, les refuser, les...
Mais non, il ne peut pas. Il est contraint par la loi.
Oui, mais enfin...
Il est quand même contraint par la loi. C'est quand même une différence énorme. Si on imagine que la possibilité des enfants dans des utérus artificiels soit posée, à ce moment-là, si vous voulez, les relations entre les hommes et les femmes sont symétrisées. Ça change complètement le droit, c'est-à-dire que on peut plus, on pourrait, d'abord les femmes auraient plus besoin de porter des enfants par rapport au droit au travail, par rapport à des tas de choses, ça changerait complètement.
Mais ça serait une facilité, mais ça change pas le fait que...
Mais non, à ce moment-là, le projet parental, dans un cas comme ça, est égalitaire. Si vous voulez. Là, le projet parental est inégalitaire. Et la loi est inégalitaire, la loi actuelle est inégalitaire, mais celle d'avant était aussi inégalitaire, elles sont toutes inégalitaires. D'ailleurs, on laisse toujours l'un des deux. Moi, je trouve pas, parce que si vous voulez, actuellement, quand même, quand on parle avec les sociologues du droit, les gens qui étudient le...
Notre corps, il a évolué à travers le temps. Moi, je suis complètement dans tout.
Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais par exemple, actuellement, une femme, écoutez, quand même, il faut regarder un peu les faits concrets sociaux. Une femme, actuellement, elle doit choisir entre sa carrière et son enfant. Ça, c'est clair et net. Et moi, je peux vous dire, j'ai quand même pas mal d'analysantes. Ça se vérifie complètement. Une femme cadre qui veut avoir des enfants, c'est la galère. Je ne parle pas des... Ben, non, mais là, je ne parle pas de la loi. Je dis que si cette utopie se réalisait, ça permettrait aux femmes d'avoir le choix. Là, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Voilà, c'est tout. Ça permettrait aux femmes d'avoir le choix.
Après, il y a toute la partie des questions. Il y a pas beaucoup de choses qui font qu'un homme reste un homme et une femme reste une femme.
Même oui, si mais un homme reste un homme et une femme reste une femme. D'accord.
Voilà,
bah oui, mais l'homme aussi, il l'a dans les bras. Non, mais ça, quand même, à ce niveau-là... Oui. Ben, c'est la grossesse et puis c'est aussi l'idéologie ambiante. Si vous voulez, ça changerait complètement les choses. Voilà, c'est tout, ça déplace.
Justement, ça changerait tellement les choses que tout à l'heure, ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'il y a deux formes de procréation, les riches et les pauvres. Tu vois ? C'est-à-dire que tant que quand tu as de l'argent...
Ça pourrait être payé par la sécurité sociale, je veux dire. La PMA, elle est remboursée par la sécurité sociale.
Pourquoi de... Bon. Mais comme si on voulait évacuer quelque chose aujourd'hui...
De se faire rembourser ?
Non.
La PMA ? Oui, non mais... Ah non mais j'ai pas dit que c'était facile. Mais bien sûr, non mais j'ai pas dit qu'il fallait faire ça. Je dis simplement que pour imaginer les choses genre loi nouvelle, pour imaginer les droits de la filiation, etc., il fallait se mettre dans des situations actuellement imaginaires mais qui seront peut-être réalisées un jour pour pouvoir imaginer d'autres systèmes, parce que sinon on est tributaire de conceptions normatives naturelles qu'on croit obligatoires, vous voyez. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut penser à des utopies comme ça pour se projeter dans ce genre de choses et se dire comment fonctionnerait le droit. Par exemple, le droit de la filiation serait modifié par ça. C'est évident, moi je ne suis pas juriste, mais il me semble évident que le droit de la filiation serait automatiquement modifié s'il y avait une possibilité comme ça, vous voyez. Parce qu'à ce moment-là, un homme pourrait faire un enfant, peut-être, dans une cocotte minute, ou des choses comme ça, je ne sais pas, il faudrait imaginer. Pour les parents célibataires, ça serait différent aussi.
Mais ça resterait toujours un ovule et un...
Ah bah oui.
Oui, mais les siens,
ou soit les siens, soit ceux des autres. Quand les femmes homosexuelles vont se faire inséminer en Belgique, elles ont un sperme anonyme. Tous les PMA sont des spermes anonymes. Enfin, les PMA, les inséminations artificielles. Oui, mais si vous voulez, ça met l'accent, effectivement. De toute façon, la psychanalyse, elle met l'accent quand même, globalement. Elle met plus l'accent, effectivement, sur ce qui est désir, conscient et inconscient, des choses comme ça. Voilà, bon, c'est vrai. C'est pas la même chose que la loi, c'est clair.
Je pense que les femmes, quand on les voit, on les entend, sans être en situation de consultation, etc., on voit bien que dès 9 mois de grossesse, elles sont adulées, supportées, adorées, etc. Il y a d'autres problèmes. Mais c'est après que le problème se pose, à savoir quand il faut reprendre le travail, comment on garde les bonnes gardes.
Ah bah oui, non, mais c'est évident. Bien sûr.
Et c'est là qu'il y a une révolution, peut-être, si effectivement la société pensait, une fois la naissance étant là, comment c'est pris en charge par le social, l'accompagnement, l'éducation de l'enfant.
Bien sûr, mais
c'est
sûr.
C'est vrai que les choses, si la femme ne portait pas l'enfant,
ça changerait les mentalités.
Ça changerait la répartition des rôles aussi, par exemple, par rapport à la guerre, parce que la femme, elle n'aurait pas besoin de s'arrêter de bosser. Donc, ce ne serait pas que à elle de chercher pour faire guerre.
Non, c'est sûr que ça changerait pas mal. Ça changerait les mentalités, si vous voulez. C'est une question de changer. Par exemple, on est dans une société... Non, mais attendez, on est dans une société où on pense que les hommes sont mauvais pour les enfants. On pense quasiment que les hommes sont dangereux. Voilà, on pense ça. Là, oui, mais d'accord, mais d'où on sort cette vérité éternelle ?
Non, mais attendez, là, il y a quand même un truc, on ne va pas rentrer là-dessus, mais c'est enlever quelque chose que la femme, organiquement, anatomiquement peut faire, pour déplacer un autre problème. Or, moi, j'ai beaucoup... Attendez, je vais finir quand même, parce que ça va être un gros trop. J'ai beaucoup de bonheur à être deux fois enceinte.
Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait s'arrêter d'être enceinte. J'ai pas dit ça. Hein. Moi, j'ai jamais interdit. Moi-même, j'ai des enfants. Hein. Je considère pas ça comme une catastrophe, loin de là.
Non,
bah oui.
Non, simplement, que là, on est en train de me dire
que ça va profondément changer la société, etc. Or, moi, je dis que ce n'est pas en annulant quelque chose qui est concret.
Mais on n'annule rien.
Mais si, parce que si tu dis demain, si on fait ça, on n'est pas obligé, mais si on faisait ça, ça enlèverait les problèmes des carrières des femmes.
Ça enlèverait, ça changerait les lois sociales, ça changerait tout, si vous voulez, voilà. Mais parce qu'on est coincé par ça, c'est évident. On est déjà coincé au niveau du droit de la filiation. Comment voulez-vous concilier? Pourquoi est-ce qu'il y a une loi inégalitaire comme celle dont je parlais pour les hommes? Parce qu'elle est inégalitaire, cette loi, elle est dégueulasse. C'est quand même dégueulasse de faire ça. C'est dégueulasse. Eh bien, on y est amené parce qu'on dit une femme doit disposer de son corps. Et comme l'enfant est dans son corps, elle doit en disposer jusqu'à la fin. Et donc, on arrive à ces lois-là. Et on est coincé tout le temps par ça, c'est vrai, au niveau de la loi. Je parle des lois, moi. Ben oui.
On sait ça. Oui. Où est le problème?
Ben, le problème, c'est que quand un homme fait l'amour avec une femme, il n'a pas envie d'être père. Eh ben non, il peut pas. Justement, c'est ce qu'on est en train de te dire. Si un homme fait l'amour avec une femme et qu'il y a un accident de présence, eh ben, et si ça casse? Non. Oui, ben oui, parce qu'il y a plusieurs féminismes. Hein?
Le ventre, c'est la seule chose qu'on ne peut pas remplacer scientifiquement aujourd'hui.
Oui, actuellement, oui.
Beaucoup de femmes féministes, hein, c'est des féministes dans ce discours. Que,
alors, on considère que les femmes sont des ventres, alors.
On pourrait se passer des femmes.
Ben c'est ridicule, ça. Ça veut dire qu'on met l'égalité. Oui, mais ben, ça, moi, ça me révolte. Ça veut dire l'égalité ventre égale femme. Puisque si on se passe des ventres des femmes, on se passe des femmes. Oui, bah oui, bien sûr. Non, mais je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Hein? Oui, si vous voulez, je considère pas moi que ça soit. Je vois pas pourquoi. Pourquoi? Ah oui.
Donc, si vous introduisez du virus artificiel, ça arrête ce processus.
Ça arrête quel processus?
Les hommes pourraient se reproduire de leur côté.
Ben oui, bien sûr, oui. Oui, tout à fait.
Donc voilà.
Oui. Non, mais écoutez. Oui, mais je l'ai entendu, mais pour moi, c'est un féminisme, si vous voulez, qui. Il y a toute une portion du féminisme, en France particulièrement, qui est un féminisme maternel. C'est-à-dire qui est basé sur une identification de la femme et de la mère. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que premièrement, au ventre, identifier la femme à un ventre. Moi, j'estime que le raisonnement qui dit on doit garder le, on doit empêcher l'utérus artificiel, bon, c'est une utopie parce que de toute façon on l'a pas. Mais oui, bon, on doit empêcher, donc on connaîtra pas. Donc on doit empêcher l'utérus artificiel. Enfin. Dire se passer du ventre des femmes, c'est se passer des femmes, c'est identifier les femmes à leur ventre. Voilà. Oui, mais ça revient à ça. Ça revient à ça. Oui. Non, je sais. Oui. Faut quand même du sperme. Ben non, il faut du sperme. Avec deux ovules. Mais. Oui. Des clonages. Clonage. Oui, d'accord.
Donc le ventre reste quelque chose d'absolument central, c'est pourquoi si on introduit une théorie artificielle, ça remet en cause beaucoup de choses.
Et en quoi c'est un problème, par exemple, s'il y avait des utérus artificiels, que deux hommes fassent un enfant ensemble? Moi, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Non, mais je ne vois pas en quoi, si vous voulez, ça ferait disparaître la race féminine, si elle a supposé que ce soit une race. Ben non, mais pourquoi? Une peur de quoi? Non, mais ça bouscule beaucoup de choses. C'est une utopie. Oui, mais alors est-ce que la différence des sexes doit passer par la filiation, si vous voulez? C'est ça le problème. Voilà. La psychanalyse, la psychanalyse, elle ne va pas dans le sens de penser, de pousser, à mon avis, en elle-même. Enfin, moi, tel que je lis les choses, je ne vois pas en quoi ça pousse à faire de la différence sexuelle quelque chose qui passe par la maternité et la paternité, vous voyez. C'est pas la même chose. La maternité et la paternité ne sont pas biologiques dans la psychanalyse, au fond. Être père, par exemple. On pense que les pères adoptent les enfants, c'est vrai. On disait avant, Freud disait, pater, il reprenait, le père est incertain, la mère est certaine. Maintenant, c'est l'inverse, on peut presque dire que c'est le contraire. Le père est toujours certain, puisque l'ADN... Donc, le père est toujours certain, on peut toujours identifier le père, on peut... Mais si vous voulez, moi j'ai travaillé par exemple dans un service mère-enfant, où on hospitalisait les mères à la naissance... les mères qui tombaient folles à la naissance du bébé, ou qui étaient déjà folles avant, qui ne pouvaient pas... Ben, on voit très très bien chez ces femmes, quelque chose qu'on observe aussi chez les autres, mais qu'on ne voit pas forcément avec la même netteté, c'est que finalement, pour une femme, la maternité passe par une adoption, par un geste d'adoption. Ce n'est pas vrai que parce qu'un bébé sort de votre ventre, il est le vôtre. C'est clair et net. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la maternité, la paternité... Il faut penser la maternité et la paternité comme quelque chose qui n'est pas uniquement biologique. Il faut penser que ça passe par des tas d'autres choses, voilà. Et que la biologie n'est qu'une part de tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on se place sur le sperme, l'ovule et le ventre, mais bon, la paternité et la maternité, pour moi, c'est autre chose. Voilà. Ou alors on considère que l'adoption, c'est pas des vrais pères et des vraies mères. Bah, si on en est là, effectivement...
Hein.
Oui, il y a des tas de choses comme ça, bien sûr. Oui.
Oui.
Il est temps que les femmes puissent faire autre chose. Moi, je ne dis pas qu'elles ne doivent plus le faire, mais il est temps qu'on ait une société qui permette. Ben, c'est vrai, si vous voulez, que les changements... Regardez, quand on a parlé... Quand vous voyez des films comme le film de Cronenberg, La Mouche, je ne sais plus de quand il date, vous connaissez pas ce film? C'est vieux. Alors, quand vous voyez un film comme ça, bon, ben, c'est un film de science-fiction, maintenant, c'est quasiment... ça existe. J'ai lu, je ne sais plus où, dans quel journal, dans Libé ou dans Le Monde, je ne sais plus, j'ai lu une histoire de... Il y a des gens, maintenant, qui ont des implants partout. Par exemple, Donna Haraway écrivait Le Cyborg dans les années 70, je crois. Maintenant, c'est réalisé. Je veux dire, on est en train... si vous voulez, tous ces changements-là sont effectivement très difficiles à penser, très complexes. Mais, par exemple, toutes les histoires de clonage sur de cultures de cellules pour faire des organes qu'on pourrait greffer, c'est un truc monstrueux pour la pensée. C'est complètement monstrueux. Ça veut dire qu'on fabrique des organes, vous vous rendez compte? On fabrique des organes pour les greffer. Avec des embryons. C'est monstrueux pour la pensée. D'ailleurs, il y a des gens qui ont trouvé que c'était tellement monstrueux pour la pensée qu'ils ont interdit de le faire, alors qu'il y en a d'autres qui ont dit on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas, parce qu'effectivement, ça permet de sauver des vies humaines et on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas. Bon, c'est un plus, mais là aussi, la cocotte minute, ça peut être un plus, si vous voulez, parce que... Mais pas forcément, puisqu'il y a des femmes qui... Mais non, il y a des femmes qui adorent ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, non, là, vous vous trompez, c'est pas vrai. Parce que... voilà, comme sa mère, sauf si sa mère elle-même était née dans une lessiveuse. Hein. Mais... c'est pas trop. Non, mais là, si vous voulez, effectivement, les femmes préfèrent... beaucoup de femmes préfèrent enfanter. Ça, c'est vrai. Et beaucoup d'hommes préfèrent que les femmes enfantent. Pour moi, c'est une possibilité, parce que je vois bien, si vous voulez, dans ma pratique, je vois des gens très bizarres et très divers, si vous voulez. Ben oui, oui, bien sûr. Je vois des femmes qui veulent pas d'enfants, j'en vois. Je vois des femmes qui ont envie d'adopter des enfants, mais qui n'ont pas envie de les faire. On voit des tas de choses. Je vois des hommes qui veulent des enfants et qui peuvent pas parce qu'ils sont homosexuels, enfin, ou du moins qui sont obligés de faire des choses très compliquées, etc., etc. Et je vois pas pourquoi, si vous voulez... Au fond, on peut très bien imaginer des choses, les projeter dans l'avenir pour réfléchir. si vous voulez. Il vaut mieux le faire comme ça, d'ailleurs. Il vaut mieux réfléchir à ces choses-là plutôt que de se les prendre dans la figure. Oui. C'est des expériences galiléennes, si vous voulez. C'est comme c'est des expériences de la pensée. Voilà. Il faut faire des expériences de la pensée pour imaginer d'autres structures de la société, même actuelles. Voilà, moi, c'est un peu comme ça que je raisonne. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que c'est inéluctable telle chose ? Pardon, est-ce que c'est inéluctable que sur la carte d'identité, on nous marque le sexe, par exemple ? Enfin, une question simple. Pourquoi est-ce qu'on nous marque le sexe sur la carte d'identité ? Ça porte à énormément de conséquences pour les transsexuels. Il y a énormément de transsexuels qui se font opérer à cause de ça. Et donc charcuter. Et c'est très dommageable, à mon avis, souvent pour leur santé physique et mentale. Bon. Eh bien, beaucoup se font opérer parce que la loi autorise le changement d'état civil si on est opéré. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, les lois ont des conséquences sur les corps. Tout ça est très compliqué. C'est pour ça que des questions très simples comme ça, qui reposent sur la science-fiction, sur des utopies qui peut-être ne seront plus des utopies, c'est pas forcément délirant de se poser ces questions et de réfléchir et de... Vous voyez ? Le livre d'Atlan ? Oui, bien sûr, c'est parce que j'ai lu ça, oui. Non, mais je m'appuie là-dessus. Bien sûr. Et il y a des travaux de juristes aussi qui ont réfléchi sur ces questions aussi, que j'ai lus et qui m'ont paru très passionnants, comme Marcela Yacoub, des gens comme ça, qui font des raisonnements très élaborés. Et c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ce qu'on doit faire, tout ce qui est possible. Il y a de la chirurgie esthétique, ça ne veut pas dire qu'on doit tous se faire refaire le visage, etc. Ce n'est pas une obligation. Enfin, je ne sais pas, bon, c'est tout des questions. Mais ça, vous voyez, l'idée que, par exemple, pour une femme, c'est horrible. L'idée, ça, c'est un fantasme à vous, ça. L'idée que pour une femme, c'est horrible de porter un enfant et que si elles avaient le choix, elles choisiraient de ne pas le faire. C'est pas vrai, à mon avis. Dans l'état actuel des choses, c'est pas vrai. Oui, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est pas évident. Oui, ça peut être commun, mais c'est pas évident que les femmes préféreraient forcément. Bon, à mon avis.
Ma mère dit, je vais partir.